Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
C'est parti, c'est lundi, il est 6h56, excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus sur RMC et sur RMC Story, lundi 7 septembre. On est ensemble jusqu'à 9h et comme tous les matins, l'économiste Emmanuel Lechypre, l'historien Arthur Chevalier.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Dans 10 minutes, un témoignage rare, celui d'un agriculteur atteint d'un cancer. Il est en céréalier en Gironde. Il est tombé malade à cause des pesticides qu'il utilisait. C'est reconnu désormais et c'est un sujet tabou, même si les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se manifester et à obtenir des compensations. C'est ce qu'on apprend ce matin. Ne manquez pas son témoignage. Ce sera à 7h10. Le problème aussi, c'est que beaucoup d'agriculteurs savent aussi qu'ils se mettent en danger, mais ils n'ont pas forcément le choix, Emmanuel.
Ils n'ont pas forcément le choix. C'est ça tout le drame. Parce qu'il y avait la pression économique. On ne pouvait pas prendre le risque de perdre une récolte. Il y avait la pression de tout l'écosystème agricole. Il fallait produire, notamment après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la pression commerciale des acheteurs. Ils voulaient des produits beaux et pas chers. Et il y avait une sous-information, c'est vrai. Donc on ne peut pas reprocher aux agriculteurs d'avoir utilisé ces produits. Mais la question de la responsabilité, elle est compliquée quand même.
Et évidemment, je la poserai donc à notre invité dans 10 minutes. 7h40, l'invité d'Apolline Matin, ce sera le porte-parole du RN, Philippe Ballard. Victoire de l'extrême droite en Allemagne, accord en cas de victoire avec le Royaume-Uni, qui fait sacrément polémique, ou encore soutien à l'Ukraine, de moins en moins évident, visiblement, pour le Rassemblement National. Il fait polémique, le Rassemblement National, sur ces sujets internationaux. On posera la question donc à 7h40 à notre invité Philippe Ballard. Arthur, à 7h20, vous revenez sur cette victoire écrasante de l'AfD en Allemagne.
Et j'insiste, c'est un moment historique puisque c'est le plus gros score de l'extrême droite en Allemagne depuis la fin du nazisme. C'est quand même un parti qui veut séparer les enfants handicapés des autres. C'est pas un petit sujet ce matin.
Et vous nous le dites dans un instant. Tout ça vous fait réagir. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez le 3216 bien sûr. Vos messages sur le WhatsApp 06 12 424 424. On parle aussi du travail du dimanche, ça aussi, n'hésitez pas à venir témoigner et réagir. Notez qu'à 8h30, mon invité politique, ce sera Olivier Faure. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste et il est candidat à l'élection présidentielle via la fameuse primaire de la gauche. Il sera donc mon invité à 8h30. Et puis, ce matin, c'est peut-être votre dernière chance pour remporter la prime de rentrée. 48 000 euros à gagner. Plusieurs auditeurs ont été appelés, aucun n'a su donner le bon chiffre. Restez donc ultra attentif. D'ici 9h, je ferai tourner la roue pour ajouter encore des centaines d'euros à ce chiffre déjà mirifique, 48 000 euros. Cette prime de rentrée, elle est pour vous. N'hésitez pas à vous inscrire et restez bien attentif pour la gagner. Il est 6h59, vous avez le programme. Dans un instant, c'est le journal. Mais d'abord, la météo et Géraldine continuent à faire très très chaud.
Oui, avec toujours 6 départements qui sont en vigilance orange canicule. Cette vigilance qui normalement devrait être levée demain matin. En attendant, donc l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme restent en vigilance canicule avec des températures attendues encore très élevées. 36 degrés à Lyon, à Grenoble cet après-midi. Il fera 35 degrés à Marseille, 35 à Clermont-Ferrand, 34 à Marseille, 31 à Bordeaux, 29 à Paris, 26 à Lille, 22 à Brest. Avec pas mal de nuages sur le nord-ouest pour aujourd'hui. Quelques averses orageuses cet après-midi vers le Massif central et les Alpes, mais sinon ce sera du soleil. Et puis à partir de demain, les températures qui vont commencer à bien descendre.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h et vous êtes bien sur RMC. Très bon lundi à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Séisme politique en Allemagne. Pour la première fois depuis 1945, un parti d'extrême droite pourrait gouverner une région. Large succès de l'AfD hier aux élections régionales. La loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles débarque à l'Assemblée nationale alors que les manifestations reprennent ce soir devant les tribunaux. Et l'OM qui ne rassure toujours pas. Deuxième défaite de rang en Ligue 1, battue hier soir au Vélodrome. 3-2 par le Paris FC.
La percée de l'extrême droite dans une région allemande.
Du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Saxe-Anhalt, bastion de l'ex-Allemagne de l'Est, en passe de basculer aux mains de l'AfD, en tête des élections régionales avec près de 45% des suffrages. Le parti anti-migrant, russophile et pro-Trump devance et de loin la CDU du chancelier Friedrich Merz qui se retrouve en bien mauvaise posture. Thomas Palmier.
Chers amis, nous avons écrit l'histoire. Le chef de file régional de l'AFD, Ulrich Siegmund, exulte. Son parti rate de peu la majorité absolue. Il lui faudra donc nouer des alliances pour espérer diriger le Parlement régional.
Nous tendrons toujours la main à toute autre force politique avec laquelle nous pourrons nous attaquer aux problèmes fondamentaux de ce pays. La migration, la sécurité intérieure et bien sûr la politique énergétique.
Anthony, électeur de l'AFD, a vécu la soirée au QG régional. Il n'espère qu'une chose, l'arrivée au pouvoir du parti d'extrême droite.
Il est évident que nous avons besoin de changements en Allemagne et en Europe occidentale. Je suis père, je suis entrepreneur et je sais que les choses ne peuvent pas continuer ainsi en Allemagne.
Changement d'ambiance au siège local de la CDU, le parti conservateur du chancelier Friedrich Merz. Une large défaite et de la colère chez les électeurs.
On s'attendait à un tel résultat, mais c'est un choc de le voir se concrétiser sous nos yeux.
Il est évident que l'AFD cherche simplement à provoquer une crise et n'a aucune intention de résoudre les problèmes. Et c'est regrettable que les habitants de Saxe-Anhalt soient si nombreux à adhérer à cette démarche.
Cette défaite de la CDU fragilise encore un peu plus un chancelier déjà affaibli au niveau national. Friedrich Merz a prévu de s'exprimer dans la journée.
C'est un moment grave en Europe, réagit le ministre de l'Europe français Benjamin Haddad. Gabriel Attal, lui, candidat Renaissance, y voit un signal d'alarme à quelques mois de la présidentielle quand l'insoumis Jean-Luc Mélenchon dénonce un désastre. Pas de réaction en revanche dans les rangs du RN, autrefois allié européen. Les deux partis d'extrême droite ont depuis pris leur distance en raison de désaccords et c'est sur un tout autre sujet que Marine Le Pen a réagi hier soir sur ses réseaux sociaux, publiant une lettre ouverte de soutien aux buralistes. La grogne monte dans le secteur avec une série d'actions nationales prévues cette semaine pour dire stop au matraquage fiscal dont ils se disent la cible et que la candidate RN Romain Houg entend défendre.
Oui, une activité professionnelle selon elle vitale pour la vie sociale et économique des villes et villages. Concrètement, la candidate RN à l'élection présidentielle propose notamment deux mesures phares, écrit-elle, pour stopper l'escalade fiscale. D'abord, geler les taxes sur le tabac, puis désindexer le prix des cigarettes sur l'inflation. Quelques chiffres pour bien comprendre. Selon un rapport du Sénat, un paquet de cigarettes vendu 12,50 euros rapporte via les taxes 10,50 euros à l'État. Reste 1 euro pour le fabricant et enfin 1 euro pour le buraliste. Voilà pour le volet fiscal, mais ce n'est pas tout. Marine Le Pen souhaite également lutter contre la cigarette de contrebande en alourdissant fortement les sanctions contre les trafiquants et la vente à la sauvette et en renforçant les prérogatives des policiers municipaux pour leur permettre de participer aux saisies de produits illicites.
Et les précisions ce matin de Romain Ouguillet, 7h04, vous écoutez RMC. C'est un texte très attendu contre les violences sexistes et sexuelles qui débarque ce lundi à l'Assemblée nationale. La loi intégrale, 69 articles étudiés en commission visant à couvrir toute la chaîne de responsabilité afin de lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, de la police à la justice. Texte réclamé par de nombreuses associations qui reprennent leur rassemblement ce soir devant les tribunaux. Mouvement né dans le sillage de l'affaire Liana. Les militantes assurent qu'elles seront vigilantes quant à la teneur des débats. Antonin Audion est allé à leur rencontre pour RMC.
C'est le combat important de la rentrée pour Chloé, étudiante de 20 ans.
Ça refait naître un peu l'envie de se mobiliser. Puis après, l'idée, c'est d'en parler aussi, pousser pour que les choses bougent.
Faire bouger les choses, c'est devenu une nécessité absolue pour Lucie, mère d'une fille de 18 ans, surtout depuis le meurtre de Liana en mai dernier.
Ça me met très en colère. On doit protéger les enfants, les jeunes femmes, les jeunes filles.
Et elle n'est pas la seule dans cette situation.
De la colère, il y en a partout aujourd'hui.
Christine Antoine est coprésidente d'Impulsion Femmes, le collectif qui organise le rassemblement devant le tribunal de Niort. Et pour elle, c'est très important que des manifestations aient lieu dans toute la France.
Des dysfonctionnements au niveau de la justice, de la police, etc., il y en a partout. Donc, je pense que c'est important de permettre à l'ensemble des territoires de se mobiliser.
Protester devant les tribunaux, comme au printemps dernier, un symbole, selon Christine Antoine, des lacunes de tout un système.
Aujourd'hui, quand une femme porte plainte, c'est des mois et des mois et des mois de procédure parce que les dossiers sont empilés.
Les collectifs souhaitent que ces rassemblements se reproduisent tous les lundis jusqu'à l'adoption de la loi intégrale.
Deux sympathisants de l'ultra-droite devant la justice, jugés devant les assises de Paris, meurtriers présumés de l'ancien rugbyman argentin Federico Martín Aramburu, tué par balle en 2022 après une bagarre sur un boulevard parisien.
Il est 7h05 sur RMC, 125 hectares partis en fumée sur les hauteurs de la vallée d'Aspe.
Un feu déclenché samedi, l'incendie était plutôt stable hier soir, un feu cœur de Crète, au cœur des Pyrénées, la montagne frappée par une vague de chaleur. Les Alpes ne sont pas épargnées. On a encore battu des records hier pour un mois de septembre, 32 degrés à Villard-de-Lans. On a même franchi la barre des 41 degrés du côté de l'Aveyron. 6 départements du Sud restent ce matin en vigilance orange canicule de l'Aude à la Drôme. Paris éteint le Vélodrome et on ne parle pas du PSG mais du Paris FC. Tombé de l'OM 3-2 hier soir en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Deuxième défaite de rang pour des Marseillais à la peine loin de rassurer Florent Germain.
Oui, comme si le Vélodrome était déjà résigné, les supporters marseillais n'ont pas eu la force de siffler après ce revers contre le Paris FC. Les fans de l'OM sont tout de même très inquiets.
Jeu inexistant, défense passoire, et ça a été catastrophique.
C'est une honte. L'année dernière, à la limite, on était contents. Je disais que des trucs positifs, mais là, cette année, c'est la troisième journée. C'est la troisième journée et je suis déjà mort de rire, parce que c'est pas normal.
Deux défaites de suite, Marseille est déjà en souffrance, mais l'attaquant Amine Gouiri en appelle à l'indulgence du public.
Il a compris et je pense qu'il voit sur le terrain qu'on se bat, on triche pas et ça se ressent je pense dans les attitudes. Si on continue à bosser comme ça, ça va finir par payer.
Ce début de championnat annonce une saison galère. L'entraîneur Bruno Genesio ne peut pas le nier.
Après un match comme ça, évidemment qu'on a de quoi être inquiet. On a fait beaucoup trop d'erreurs grossières. Donc inquiet, il y a que 3 journées de jouer. Personne au club n'est dupe et moi le premier, j'ai mis en garde déjà après le premier match des moments difficiles qu'on pourrait traverser dans cette saison et c'est normal.
D'autant que le calendrier de Marseille va se corser. Rennes et le PSG sont en Ligue 1 les prochains adversaires de l'OM.
Et au classement, les Parisiens sont deuxième derrière Monaco. L'OM est dixième devant le PSG, 13e. Et puis c'est l'événement de la rentrée. Céline Dion à Paris. La star québécoise entamera samedi sa série automnale de 16 concerts parisiens arrivés dans la capitale il y a un peu plus d'une semaine. Elle enchaîne les répétitions, jamais loin de ses fans présents en nombre devant le palace parisien de la star. Alfred Orange s'est lui aussi laissé gagner par la folie, Céline Dion.
C'est sur le perron de son hôtel, souvent à la nuit tombée, en revenant de ses répétitions, que la chanteuse improvise des pas de danse. Tous les yeux émerveillés de centaines de fans, Martine y passe ses soirées.
Elle est venue nous voir, nous parler un petit peu et beaucoup de coucou.
L'occasion aussi pour Nathalie de faire monter le plaisir avant le grand soir.
J'ai une place pour le concert et ça sera la 4e fois que je la vois. Et c'est peut-être les dernières fois qu'elle va venir en public, donc ça vaut le coup.
Un engouement perceptible aussi dans les hôtels autour de la Plénitude Arena qui affiche complet pour les 16 concerts de Céline Dion. C'est en fait toute une région qui va en profiter, estime Leslie Rival, secrétaire générale de l'Alliance France Tourisme.
Pour ce type d'événement, le touriste dépense en moyenne 3000 euros. Ce qui fait que lorsqu'on multiplie les 500 000 billets vendus fois 3000 euros, nous arrivons à ces chiffres de 1 milliard pour un mois. Et donc pour les 6 dates supplémentaires, ça nous fait 1 milliard et demi.
1 milliard et demi d'euros de retombées économiques grâce notamment à la forte présence de spectateurs étrangers jugés plus dépensiers que les clients français.
De l'argent, mais aussi beaucoup de plaisir pour les fans de Céline Dion.
Tellement. Je dois vous dire que depuis ce matin, bon, j'écoute RMC évidemment depuis 5h ce matin, régulièrement, vous mettez un petit peu de musique et depuis, je chante dans ma tête. Alors là, je fais semblant avec
allez-y.
Vous de présenter cette matinale. Je vais faire semblant tout à l'heure de faire des interviews, mais en vrai, dans ma tête, je chante Céline Dion. C'est-à-dire que c'est une espèce de...
On l'entend, Pauline, c'est très gênant.
Elle me hante depuis ce matin, j'ai envie de chanter. Allez, non, je me retiens parce que c'est le moment de vous faire gagner et ça, c'est quand même très, très important. C'est le moment de vous faire gagner votre prime de rentrée et elle est considérable, cette somme. Au moment où l'on se parle, elle est de 48 875 euros. Oubliez ce chiffre parce que dans un instant, je vais faire tourner la roue et il va augmenter ce chiffre. Attention, c'est la somme que l'on va vous offrir. Je fais tourner ma roue, c'est mon moment roue de la fortune. Ce matin, je voudrais être Céline Dion et la roue de la fortune. Alors attention, j'ai rajouté... Waouh ! J'ai rajouté 1500 euros. J'ai rajouté 1500 euros dans votre cagnotte. Attention, nous passons la barre des 50 000 euros. Nous sommes sur 50 375 euros. 50 375 euros. C'est le montant de la prime de rentrée. 50 375 euros. Cette somme, elle est pour vous. Si vous vous inscrivez tout de suite, vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Vous envoyez prime au 732-16, prime au 732-16, 50 375 euros, la prime de rentrée. Restez bien à l'écoute d'RMC, on vous demandera le montant de la prime de rentrée et ce sera gagné.
75 centimes par SMS, 4 SMS maxi.
On est ensemble jusqu'à 9h quand travailler vous donne le cancer. L'an dernier, plus de 1000 demandes d'indemnisation ont été déposées par des victimes de pesticides. C'est un chiffre record. Jean-Luc Goodnesh est avec nous en direct. Bonjour. Vous étiez céréalier en Gironde. Vous êtes aujourd'hui atteint d'un cancer de la moelle osseuse après avoir manipulé pendant des dizaines d'années des produits dangereux. Aujourd'hui, les agriculteurs ont de plus en plus conscience du mal qu'ils se font. Voilà votre parti pris dans un instant, votre témoignage. Surtout, on vous donne la parole dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 sur RMC. Il vous reste 6 minutes. 6 minutes pour vous inscrire et tenter de remporter la prime de rentrée. Il y a 50 375 euros dans la cagnotte. 50 375 euros. Vous connaissez le principe. Il faut bien retenir cette somme. Attention, parce que chez Estelle, vendredi, on a appelé et la personne ne connaissait pas la somme et s'est passée à côté. Donc attention, 50 375 euros. Vous envoyez prime au 732-16. Prime au 732-16 et vous notez sur un petit post-it sur votre main 50 375 euros. Si on vous appelle, qu'on vous demande la somme, elle est pour vous. Il est 7h15 sur RMC. Je voudrais qu'on en vienne à ces demandes d'indemnisation au fond des victimes des pesticides. Il y a eu 1000 demandes déposées, rien que pour l'année dernière, un chiffre jamais atteint. Bonjour Jean-Luc Goudnech. Vous êtes agriculteur à la retraite, vous avez été céréalier en Gironde et pendant des années, vous avez manipulé des bidons de pesticides et d'herbicides. Avant de contracter un cancer de la moelle osseuse, c'était en 2001, il y a près de 7% de plus de demandes d'indemnisation de la part de vos confrères agriculteurs. Ça veut dire effectivement que non seulement il y a plus de cancers, mais il y a aussi une prise de conscience. Ça ne vous surprend pas, j'imagine?
Oui, bonjour. Non, ça me surprend pas du tout. Donc, j'espère, en fait, dès que l'année prochaine, il y en a encore beaucoup plus. Hein. Ça voudrait dire que la prise de conscience est encore supérieure à ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. Et ça voudrait dire aussi que peut-être que le monde agricole a conscience du danger d'utiliser des pesticides.
C'est la fin d'un tabou?
Peut-être, et je l'espère.
Comment vous allez-vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis dans ma quatrième rechute, donc je suis sous immunothérapie depuis septembre 23. Il y a forcément des hauts et des bas, et c'est un combat depuis 25 ans maintenant que je mène.
C'est un combat que vous menez quotidien. Vous d'abord contre le cancer, et c'est un combat que vous menez plus globalement aussi pour alerter, pour que vos confrères, vos collègues ne se retrouvent pas dans cette situation-là. Le fait que ce soit reconnu désormais, est-ce que vous estimez qu'il y a un décalage entre cette reconnaissance médicale, j'allais dire, et le fait que un certain nombre d'agriculteurs continuent à être exposés et en danger?
Oui, forcément, il y a un décalage. Alors le décalage, je ne sais pas pourquoi il existe, ce décalage. Je pense que tout simplement, les agriculteurs n'ont pas conscience des produits qu'ils utilisent. Alors ce sont des pesticides, mais c'est des poisons surtout, et donc ils n'ont pas conscience de ça, et puis peut-être qu'aussi ils n'ont pas le choix. Alors on a toujours le choix d'utiliser ou de ne pas utiliser les pesticides.
Vous aviez le choix?
À l'époque, non, parce que justement on nous forçait à utiliser des pesticides, des
qui
engrais,
ça,
il fallait...
Alors
déjà nous, parce que la fierté agricole, on veut toujours faire plus, et puis bien sûr les coopératives, tout le monde nous disait qu'il fallait faire produire plus, parce que plus on allait produire, plus on allait gagner, plus, voilà, et on s'aperçoit que le plus, eh bien, ça a une fin, quoi. Mmh. Et la fin, c'est... On s'en aperçoit aujourd'hui, la fin, c'est...
Jean-Luc,
Jean-Luc
Goudnech, qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune agriculteur? En gros, vous considérez que ce sont ces produits qui sont toxiques et qu'il ne faut pas les utiliser, ou bien est-ce que c'est la façon dont il faut les utiliser qui doit être beaucoup plus prudente que ce que vous faisiez, vous, à l'époque?
Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'était absolument pas prudents, on était complètement naïfs. Je ne vais pas revenir comment on l'utilisait, mais c'était vraiment du n'importe quoi.
Sans aucune précaution, quoi.
Oh, sans aucune, mais vraiment aucune précaution. Alors pourquoi on était comme ça, je ne sais pas. Aujourd'hui je me pose des questions, je me dis comment on n'a jamais réfléchi à ce que les conséquences. Bon, ça c'est quelque chose. Ensuite aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil, il y a des lobbies qui sont tellement forts, on pousse à pousser les agriculteurs à aller dans les pesticides. Et je pense que peut-être qu'on les utilise mal, peut-être qu'on en utilise trop, peut-être qu'on les utilise mal. Mais je pense qu'il y a des alternatives qui étaient sur le point d'aboutir et on n'a pas été jusqu'au bout de l'étude, quoi.
Bonjour Jean-Luc, mais en fait, ça concerne aussi en réalité, de façon indirecte, mais les consommateurs, parce que nous aussi, on sait très bien qu'il y a plein de nourritures qu'on mange qui ont été traitées avec des formes de poison sous toutes les sortes. Est-ce que vous croyez qu'il y a une sorte de prise de conscience globale sur ce sujet où en fait on a un rapport trop détendu à un poison en fait qu'on s'est tous habitués à manger, alors, à travailler avec.
Alors oui, le consommateur est fautif aussi parce que le consommateur qu'est-ce qu'il veut ? Il veut des fruits sains, des fruits bien avec une bonne couleur, sans tache, sans voilà. Donc effectivement le consommateur il est déjà fautif au départ. Donc partant de là, si vous voulez, c'est la chaîne qui remonte. Pour avoir des produits, des fruits, des légumes jolis, il faut pas qu'il y ait de maladies, il faut pas qu'il y ait d'insectes, il faut pas. Et donc forcément tout ça, ça amène à l'utilisation de pesticides. Alors après, je pense que aujourd'hui il y a peut-être des techniques. J'espère qu'il va y avoir des techniques pour remédier à tout ça. Mais c'est pas facile, quoi.
Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Goodnesh d'avoir témoigné ce matin. Je vous le rappelle, cette information, c'est le chiffre pour l'année dernière. Plus 7% de demandes d'indemnisation pour des agriculteurs qui auraient été effectivement victimes malades de l'utilisation de ces pesticides et ces herbicides. Ce fonds qui a été lancé en 2021. Vous-même, Jean-Luc Goodnesh, vous avez contracté ce cancer. Vous avez été déclaré invalide à 100%. Courage à vous. Et prenez soin de vous, merci à vous. Il est 7h21 sur RMC. On va remonter l'histoire avec Arthur Chevalier. Arthur, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'extrême droite allemande a remporté une élection locale hier et c'est un coup de tonnerre.
Mais oui, l'AfD a obtenu 44% des voix en Saxe-Anhalt, une région de l'ancienne Allemagne de l'Est. Le parti ouvertement xénophobe et pro-russe pourrait gouverner pour la toute première fois de son histoire.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui arrive, il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et comme chaque jour avec Arthur Chevalier, on remonte le temps. Coup de tonnerre en Allemagne hier, Arthur. L'AfD, le parti d'extrême droite allemand, a réussi son meilleur score dans une élection. Il est arrivé largement en tête.
Et oui, c'est un moment historique. Si l'AfD réussit à former une alliance pour gouverner, ça sera donc la première région dirigée par l'extrême droite depuis la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Le leader de l'AfD en Saxe-Anhalt, c'est un homme de 35 ans, il s'appelle Ulrich Siegmund, son programme est très radical, voire parfois très choquant. Alors voici certaines de ses idées. Dans les écoles, il veut séparer les élèves handicapés des autres élèves. Évidemment, il est pro-russe, il veut couper l'aide européenne à l'Ukraine et qu'on lève les sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine.
Quand a été créé l'AfD ?
En 2013. Et à l'origine, c'était un parti d'économistes, l'AfD, d'économistes universitaires, des économistes qui ne voulaient pas que l'Allemagne paye pour les autres pays de la zone euro. Alors à l'époque, souvenez-vous, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, tous ces pays étaient en pleine crise de leurs dettes. Rapidement, c'est devenu un parti anti-immigration, ouvertement xénophobe, mais pas seulement, puisque l'obsession de l'AfD, c'est d'arrêter la repentance. En gros, ils disent que l'Allemagne n'a plus à s'excuser d'avoir été nazie, ça suffit avec cette histoire. Certains de ses leaders ont même déjà utilisé des slogans nazis en meeting.
Qui est le leader national de ce parti ?
C'est une femme, Apolline, elle s'appelle Alice Weidel, elle ne correspond pas tellement à l'idée qu'on se fait d'un leader d'extrême droite. Elle a longtemps travaillé dans la finance, chez Goldman Sachs. Elle est ouvertement homosexuelle, en couple avec une femme d'origine sri-lankaise, avec laquelle elle a deux enfants. Un mode de vie qui tranche avec les positions conservatrices de l'AfD, qui est très hostile au courant LGBT. Disons que ça donne une image un peu pseudo-fréquentable, si vous voulez.
Comment on explique le succès de ce parti récemment, là ?
Alors, l'AfD réalise des très très gros scores dans des régions qui faisaient partie de l'Allemagne de l'Est. C'est le cas de la Saxe-Anhalt, quand l'Allemagne a été réunifiée après la chute du mur de Berlin, donc en 1989. C'est l'Allemagne de l'Ouest qui est devenue la référence et le modèle de tout. L'Ouest est plus riche, c'est la référence en matière de culture, ouverte, pro-européenne. Et petit à petit, les Allemands de l'Est se sont sentis méprisés. L'AfD a surfé sur ce ressentiment en affichant des positions anti-Europe et anti-immigration. Alors tout ça, c'est aussi beaucoup de fantasmes, puisque pour rappel, Angela Merkel a dirigé l'Allemagne pendant 16 ans et elle venait de l'Allemagne de l'Est. Mais il faut bien admettre que ça marche. Aux dernières législatives, en 2025, l'AfD a obtenu 20% des voix en se plaçant en deuxième parti d'Allemagne. Et ils ont clairement la dynamique pour les prochaines élections.
Merci Arthur. Toutes les chroniques d'Arthur Chevalier sont à retrouver à tout moment en podcast sur l'application RMC à 7h40. Je poserai aussi la question au porte-parole du parti le Rassemblement National, Philippe Ballard. Officiellement, l'AFD n'est pas du tout allié du RN, qui d'ailleurs a rompu totalement avec l'AFD. Mais tout de même, cette dynamique, je poserai évidemment la question au RN. Il est 7h25, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. À 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le candidat à l'élection présidentielle, premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
Encore un. Encore un socialiste, Apolline. Ouais. Il y a 4 jours, Ségolène Royal. Il y a 3 jours, Raphaël Glucksmann. On laisse passer le week-end et pof, Olivier Faure, la gauche partout. Eh, faut nous le dire si on a été racheté par France Inter. Hein. Et oui, vous êtes bien sur la matinale de France Inter avec Apolline de Malherbe. Dans un instant, Olivier Faure, mais avant, la chronique économique d'Emmanuel Le Chypre sur France Inter. La chronique éco,
bonjour à tous. Le capitalisme est la pire chose qui soit arrivée à l'humanité.
Vous me l'avez fantasmé.
Est un vampire prédateur qui... Je peux pas lire ça. Je peux pas lire ça. Tu m'étonnes que Nicolas Demorand il soit devenu dépressif dans cette radio de malade.
Merci Emmanuel. Et tout de suite, Arthur Chevalier, notre historien de France Inter. Bonjour Arthur. Pour sa chronique sur le rôle méconnu du soja dans les victoires napoléoniennes. Olivier Faure est candidat à la présidentielle, c'est le patron du PS, mais il est quand même obligé de se présenter à la primaire de son parti.
C'est vrai.
Enfin, t'es PDG, tu dois repasser un entretien d'embauche dans ta boîte parce que les employés ne te trouvent pas assez bon, ça craint. Et il affrontera Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann, Philippe Brun, Jérôme Guedj, peut-être même Lydie Massard, la dame de la cantine de Pontivy, qui a pas annoncé son retrait encore. Hein. On en parlait vendredi, j'invente pas. Et alors un petit nouveau, Fabien Verdier.
Ah oui.
Vous saviez qui se présente, Fabien Verdier? Il s'est lancé ce week-end. C'est l'ancien maire de Châteaudun. Et il a perdu aux dernières municipales. Putain, sérieux, quand même Châteaudun veut pas de toi, tu te dis pas...
Tiens, si j'avais un destin national.
Olivier Faure sort un livre le 17 septembre qui s'appelle « La loi du plus juste ». Ouais. Et ça lui va bien, je trouve. Il est à 3% dans les sondages. Effectivement, c'est juste.
Ouais.
Pour être candidat, c'est très, très juste. Alors, comme il sait que c'est pas terrible, il a trouvé la parade. Il répond, mais Madame de Malherbe, François Hollande aussi était à 3% et il a fini président de la République. C'est une forme de méthode couée assez intéressante. C'est le genre, mais Olivier, les gens, ils te trouvent mou et chiant. Et alors Vincent Delerme aussi, il fait les zéniths. Non mais. Olivier Faure, tu lui coupes les deux bras, les deux jambes. Philippe Croizon, il a fait une carrière extraordinaire. Voilà. Et vous reviendrez avec lui sur la victoire de l'AFD, évidemment, le parti d'extrême droite allemande dans le Länder de Saxe-Anhalt. Alors on connaît mal cette région à Pau. Donc évidemment.
Je vois venir, Arnaud.
Pour en savoir plus.
Oh mon Dieu.
J'ai donc tapé Saxe-Anhalt dans Google. Non. Alors soit j'ai fait une faute de frappe. Soit ces gens ont des mœurs très particulières. Hein. C'est une autre culture, quoi. Ils se font pas la bise pour se dire bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a plein de documentation de qualité sur le web, des très nombreux films explicatifs.
C'est pénible.
Non, mais c'est assez bien fait. Faut reconnaître que c'est bien foutu. Donc, vous analyserez tout ça avec Olivier Faure à 8h30. J'imagine une analyse.
Voilà. Trompé de lettres. Non, je veux pas.
Non, c'est une analyse sérieuse. Tu sais, c'est le Alain Duhamel en moi.
C'était Arnaud de Manchester, 7h29. À tout de suite pour la météo journal. Pardonnez-nous, on est en retard. Il est 7h31, il fait chaud, Géraldine.
Avec toujours 6 départements en vigilance orange canicule, Aude, Hérault, Gard, Vaucluse, Ardèche et Drôme, avec des températures qui vont rester élevées cet après-midi. 36 degrés attendus à Lyon, Grenoble, 35 à Clermont-Ferrand, 34 à Marseille. Il fera en revanche 31 à Bordeaux, 29 à Paris, 26 à Lille, avec pas mal de nuages sur le nord-ouest. Et puis cet après-midi, on pourra avoir quelques averses orageuses vers le massif central et les Alpes. Sinon, ce sera du soleil.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va. C'est pas
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Prochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Une expédition punitive, c'est la thèse des enquêteurs alors que s'ouvre aujourd'hui le procès à Rambourou, du nom de ce joueur de rugby professionnel abattu en plein Paris. Deux militants d'extrême droite seront jugés. L'extrême droite aux portes du pouvoir dans une région allemande, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis l'ogre toulousain chute d'entrée en top 14, défaite des Rouges et Noirs, 30 à 27 à La Rochelle pour la reprise.
Le procès de l'assassinat de Federico Martín Aramburu s'ouvre aujourd'hui.
C'était il y a 4 ans. L'ex-rugbyman était abattu en pleine rue à Paris, le corps criblé de balles. 2 accusés dans le box à partir d'aujourd'hui. Loïc Le Priol, Romain Bouvier, tous 2 militants d'extrême droite qui avaient croisé la route de la victime quelques instants plus tôt, Maxime Clieruza.
Tout commence par une banale altercation à l'aube, à la terrasse d'une brasserie parisienne, entre 2 groupes alcoolisés. D'un côté, Loïc Le Priol et Romain Bouvier. De l'autre, Federico Martín Aramburu est l'un de ses amis. Après avoir échangé des coups, l'ancien rugbyman quitte les lieux, mais il est très vite rattrapé par Romain Bouvier, d'abord qui tire 4 balles, puis arrive Loïc Le Priol qui fait feu à 6 reprises. Pour mettre le bras qui défend la famille de Federico Aramburu, les 2 hommes ne lui ont laissé aucune chance.
Là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas un tireur qui dégoupille, n'arrive pas à contrôler sa colère, c'est qu'il y en a 2. Et qu'ils ont la particularité de décider chacun de vider leur chargeur dans un temps extrêmement court.
Loïc Le Priol et Romain Bouvier se sont radicalisés ensemble au GU d'un groupe classé à l'ultra-droite, fiché S. Ils ont tous 2 été condamnés à une peine de prison ferme après une agression violente en 2015. Mais les 2 hommes assurent que face à Federico Martín Aramburu, ils ont agi par instinct de survie, comme l'explique Maître Vigier, l'avocat de Romain Bouvier.
Il dit, moi, je vais être effectivement roué de coups. Et il sort son arme. Il la dirige, selon lui, essentiellement vers le sol pour tirer, faire peur à Federico Martín Aramburu.
Les 2 accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité.
Un procès qui devrait durer 3 semaines. Des manifestations devant les tribunaux de France aujourd'hui. Moyen notamment pour des collectifs féministes de maintenir la pression alors que la loi intégrale contre les violences sexuelles débute son parcours parlementaire. Passage d'abord en commission spéciale à l'Assemblée nationale. Elle sera ensuite examinée au sein de l'hémicycle. Au premier jour de la rentrée, ce sera en octobre. Un candidat de plus dans la course à la présidentielle, c'est le patron des communistes, Fabien Roussel, désigné par un vote de son parti à 72%. Pour rappel, à l'élection de 2022, il avait obtenu seulement 2,28% des suffrages. Score historique pour l'extrême droite en Allemagne. Ce sont des élections régionales dans le Land de la Saxe-Anhalt, mais leur retentissement dépasse largement les frontières. 44% pour l'AfD selon les résultats partiels, très loin devant le parti de droite au pouvoir, la CDU, à quelques sièges de la majorité absolue. Les tractations pour des alliances commencent, mais le candidat de l'AfD, Ulrich Siegmund, savoure déjà et espère même pousser le chancelier Merz à la démission.
Le peuple a clairement montré qu'il veut enfin un changement de politique. Et surtout, il a montré qu'il le veut avec nous. Je suis curieux de voir quelles conséquences cela aura dans la sphère politique de Berlin dans les prochains jours. Nous allons bien sûr assumer nos responsabilités politiques. Nous ferons exactement ce que nous avons annoncé durant la campagne électorale.
Et des réactions en France, un moment grave, écrit le ministre de l'Europe Benjamin Haddad. On vous détaillera les réactions des oppositions, ce sera dans le journal de 8h. Les 2 émissaires américains ont quitté Kiev cette nuit. Premier déplacement en Ukraine pour Steve Witkoff, un proche de Donald Trump, et pour Jared Kushner, le gendre du président américain. Ils avaient tous 2 rendu visite à Vladimir Poutine la veille. Intensification de discussions qualifiées de positives, mais Célestin Bougère, on est encore loin d'un accord.
Des discussions très significatives selon les émissaires américains. Mais en conférence de presse après la rencontre, Volodymyr Zelensky le conçoit. Le conflit est encore loin d'être terminé.
Si la guerre continue cet hiver, ça ressemble à cela pour l'instant, nous aurons besoin d'aide de nos partenaires américains et européens dans les secteurs de l'énergie et de la défense aérienne.
Pour Ulrich Bouna, spécialiste en géopolitique, l'essentiel est ailleurs. Plus qu'une avancée significative vers un accord de paix, cette visite des émissaires Steve Witkoff et Jared Kushner est un symbole.
Steve Witkoff avait déjà été rencontré Vladimir Poutine 8 fois, il n'avait jamais rencontré Volodymyr Zelensky. Ça montre que les Américains décident de prendre en compte la vie des Ukrainiens pour arriver à la fin de la guerre.
Ce qui bloque encore, c'est la question des territoires. Où tracer les frontières? Selon Steve Witkoff, pour un accord de paix, Moscou et Kiev devront faire des compromis.
Des 2 côtés, il n'y a aucune incitation à faire des compromis. Vladimir Poutine a fait de la conquête du Donbass une condition. Mais effectivement, les Ukrainiens ne sont pas dans une situation si désespérée qu'ils devraient renoncer.
Volodymyr Zelensky a réaffirmé que la question des territoires ne peut être résolue qu'entre président, mais Vladimir Poutine a jusqu'ici toujours refusé de négocier directement avec son homologue ukrainien.
Célestin Bougère pour RMC. Cet accident spectaculaire et meurtrier à Miami hier où un avion cargo d'Amazon est sorti de piste. Après son atterrissage, il a traversé une route avant de prendre feu dans un champ. Il a percuté des véhicules faisant au moins 5 morts et 5 blessés. Le rugby à présent est rentré des classes contrariées pour le Stade Toulousain. Reprise du top 14, c'était ce week-end et le quadruple champion de France en titre est tombé hier soir à La Rochelle. Défaite 30-27 sur le gong, Romain Asselin.
Et pourtant, Toulouse menait largement au score, 14 points d'avance avant l'heure de jeu, rentrée parfaite, mais tout s'est écroulé. Un premier avertissement que ce match de rentrée pour le manager Hugo Mola.
Peut-être qu'on a pensé peut-être un peu trop tôt qu'il était gagné. C'est un peu nos péchés mignons de la saison passée qui nous retombe directement dessus. Trop d'approximations pour gagner chez une équipe qui annonce au effort qu'elle va viser le top 6. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est 3 points perdus, mais en tout cas des points perdus.
Et un retard à l'allumage pour lancer l'objectif quintuplé, exploit jamais réalisé dans l'histoire du championnat de France. L'ailier Mathis Lebel sait que la cible est dans le dos de l'ogre toulousain, malgré lui.
Je pense que cette rivalité que les équipes peuvent ressentir envers nous, elle est aussi portée par vous, parce que nous, jusqu'à présent, à part peut-être en interne, on ne se vante pas dans les journaux de parler de quintuplé ou autre chose. On est là pour faire la meilleure saison possible.
Celle-ci commence par un accro, une semaine avant le choc que la France du rugby attend, face au grand rival, l'Union Bordeaux-Bègle, leader du top 14 après cette rentrée.
Et en mode football, pour vous dire que l'Olympique de Marseille a confirmé ses difficultés en Ligue 1, défaite 3-2 au Vélodrome contre le Paris FC. Les autres résultats d'hier, c'est la victoire de Rennes 2-1 contre Angers et le carton de Strasbourg contre le promu 3-6.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de Cran, 13h55.
Voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 16, idéal de du Rocher. Et son outsider, le 3, King de l'Ouest, le 16 et le 3.
C'était le journal de Victor Pochet. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
C'était hier soir, soirée électorale dans la région de Saxe-Anhalt, dans l'est de l'Allemagne. Une victoire historique pour le parti d'extrême droite, l'AFD, un parti qui veut notamment séparer les enfants handicapés, les enfants immigrés des autres enfants qui prônent la remigration, qui soutient la Russie face à l'Ukraine et qui veut arrêter avec, disent-ils, la culpabilisation de l'Allemagne à propos de l'époque nazie. Bonjour Philippe Ballard, vous
bonjour,
êtes
Apolline
député, porte-parole du Rassemblement National. L'AFD a été votre allié jusqu'en 2024, mais vous avez rompu les ponts. Est-ce que vous vous réjouissez quand même de cette victoire ?
On prend acte de cette victoire. Nous sommes souverainistes. Donc les Allemands de ce land ont voté. Ils ont porté, alors si c'est au pouvoir, parce qu'il y a encore les jeux des coalitions qui vont jouer, mais enfin, voilà. Mais vous l'avez rappelé, on s'est séparé de l'AFD. Vous avez énuméré un certain nombre de choses qui ont fait qu'on s'est séparé des propos sur la Deuxième Guerre mondiale, sur ce concept de rémigration. Enfin, pourquoi on expulserait des gens qui sont en situation régulière ? On commence à expulser les clandestins et les 120 000 OQTF. Voilà, on peut commencer par ça.
Vous nous le dites dans un instant, Philippe Ballard sur RMC. Il est 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Est-ce que les questions internationales sont le talon d'Achille du RN ? On a un peu du mal à s'y retrouver. Jordan Bardella qui fait des concessions au leader du parti anti-européen UKIP. La France qui n'a plus les moyens de soutenir l'Ukraine. Ça, c'est ce qu'il dit également. Il l'a dit notamment au micro de BFM TV. Mais Louis Alliot le disait également. Bonjour Philippe Ballard.
Bonjour Apolline.
Vous êtes député RN. Vous êtes porte-parole du Rassemblement National. Je vais vous poser des questions sur notamment cette alliance étrange en Angleterre, menée vendredi par Jordan Bardella. Mais d'abord, c'est, je le disais, cette victoire de l'AFD hier. Vous n'avez plus aucune connexion avec l'AFD. Est-ce que malgré tout, vous vous dites que ça crée une dynamique ? Comment vous regardez ça ?
Mais non, mais il faut analyser un petit peu les résultats. En fait, il faut se poser une question très simple. Pourquoi les Allemands de ce land, de 2 millions d'habitants, ont voté pour l'AFD. On pourrait se poser la même question aux États-Unis. Pourquoi ont-ils voté pour Donald Trump ? On retrouve à chaque fois quasiment les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une politique migratoire complètement incontrôlée, une désindustrialisation. Je parlais des États-Unis, vous savez, ce qu'on appelle la Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture rouillée. C'est le symbole de la désindustrialisation des États-Unis. Bah, tous ces gens-là qui voient une immigration incontrôlée, qui perdent en pouvoir d'achat, bah, ils se retournent vers des gens qui leur disent « Make America Great Again ». On n'est pas fan forcément de Donald Trump, mais enfin, il faut analyser les ressorts de ce vote. Et en Allemagne, c'est la même chose. Désindustrialisation, pouvoir d'achat, et ben tout ça, ce sont les ingrédients pour un vote.
Il y a un lien entre vous et eux ou...
Avec l'AFD ?
Ouais.
Alors, on le disait tout à l'heure, en préambule, on ne siège plus dans le même groupe au sein du Parlement européen. Vous avez énuméré tout à l'heure un certain nombre des choses qui sont des points de blocage, qui sont des lignes rouges, comme l'on dit, des propos sur la Deuxième Guerre mondiale, ce concept de rémigration, pourquoi allons-nous expulser des gens qui sont en situation régulière? On commence à expulser les clandestins, on commence à expulser les 120 personnes, 120 000,
Mais c'est pardon, quoi, on commence, sous EQTF en France. Vous ferez quoi après?
On commence. C'est-à-dire on fait ce qu'on devrait faire depuis longtemps et qu'on n'a jamais fait en France. On n'a pas à avoir 1 million de clandestins sur le territoire national. On n'a pas à avoir 120 000 personnes sous OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, mais qui restent quand même en France, plutôt que de parler de rémigration.
Philippe Ballard, je voudrais comprendre qu'est-ce que Jordan Bardella a été faire avec Nigel Farage, signer en grande pompe, une sorte de faux traité ou de traité à venir, dans lequel il dit, ok, super, renvoyez tout le monde chez nous.
Ah non, c'est pas tout à fait ce qu'il a écrit. Non. Alors attendez, on va remettre les points sur les i. Je me fais devenir, comme ça on va s'expliquer.
Très bien, allez-y.
Ce sont les bateaux. C'est très clair. Ceux qui arrivent au Royaume-Uni sont détenus au Royaume-Uni et seront expulsés par les autorités britanniques. Ceux qui sont dans la Manche, et qui risque de se noyer entre parenthèses, parce que nous, on n'est pas contre les immigrés, on est contre une politique migratoire complètement incontrôlée. Il y a une différence quand même. Quelqu'un qui est en train de se noyer en pleine mer, évidemment, on va le secourir.
Le Royaume-Uni interceptera les embarcations parties des côtes françaises et pénétrant dans les eaux territoriales britanniques et ramènera en France les personnes se trouvant à bord. La France reconduira ces personnes vers leur pays d'origine.
Absolument. Donc là, il n'est plus question des personnes qui arrivent, des clandestins qui arrivent sur le sol britannique. On parle des personnes interceptées dans la Manche. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pour envoyer un signal, mais je ne vais pas dire à la terre entière, mais vous savez, en Australie, il y a une dizaine d'années, ils ont fait une opération, ça s'appelait No Way. C'est-à-dire, quand on était clandestin, on ne pouvait pas mettre les pieds sur les territoires australiens. Ça sera la même chose pour la France et le Royaume-Uni. On envoie un signal
pour
tous les réseaux de mafieux. Ce sont des réseaux mafieux qui se font de l'argent dos de pauvres bougres. C'est ça qu'on veut combattre.
Mais oui, monsieur le député, mais alors quand même, vous êtes au courant que, à part le RN, personne ne défend cet accord. La classe politique française l'a unanimement condamné, mais le plus humiliant pour la France, et je pense que vous y serez sensible, c'est la une des journaux britanniques avant-hier en Angleterre, où tout le monde se moque de Jordan Bardella, donc tout le monde se moque de la France, car c'est un député européen français. On est un sujet de ridicule numéro un en Angleterre. Vous pouvez pas nous dire qu'il y a que le RN qui a compris ce qu'a fait Jordan Bardella. Toute la classe politique française le comprend pas. Et l'Angleterre, qui est bénéficiaire de l'accord, se moque de lui. Il y a un problème quand même dans cette histoire.
Non, pas du tout, parce que je pense que la classe politique française, si vous voulez, là, on va se perdre.
Et les Anglais pendant
8 mois, et les Anglais, mais c'est la même chose. Enfin, la presse britannique, on la connaît un petit peu.
D'accord, donc
la
penche pas
du côté de Farage. C'est pas ça, mais on sait très bien, mais on peut revenir au niveau français, hein. Là, on a une très grande partie de la presse qui se déchaîne contre nous. Nos adversaires politiques, mais à la limite, ça c'est normal.
Non,
mais pourquoi? Parce qu'on a créé, on a une vraie dynamique en ce moment. On a un duo qui fonctionne merveilleusement bien. Moi, je vais vous dire,
Il fonctionne merveilleusement bien.
Ah oui, absolument, oui. Vous en faites pas, il n'y a pas de souci.
Jordan Bardella, Marine Le Pen, il n'y a pas de doute.
C'est un duo, absolument formidable. Bientôt, ça sera Marine Le Pen à l'Élysée, Jordan Bardella à Matignon. Moi, j'étais en circonscription ce week-end. J'ai fait un barbecue patriotique. On était 60 en 2022 quand j'ai été élu. Là, on était 300. J'ai fait 25 adhésions. Il y a un formidable mouvement en France pour notre mouvement, pour Marine Le Pen, pour Jordan Bardella, qui se dessine. Il y a encore 8 mois de campagne. Nous, on fait campagne comme si on était à 15%.
Entre Éric Ciotti qui dit qu'il faut les moyens pour une Ukraine libre et indépendante et Louis Alliot qui dit qu'il faut couper le robinet financier à l'Ukraine, vous choisissez qui?
Mais Jordan Bardella était sur BFM, il est revenu, il s'est expliqué sur cette phrase. Nous avons toujours condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un pays agressé, un pays agresseur. L'agresseur, c'est la Russie. Le pays agressé, c'est l'Ukraine. Il y a pas de doute, non? Franchement, il y a absolument aucun doute là-dessus. Et on soutiendra l'Ukraine quand il faudra reconstruire l'Ukraine. On sera aux côtés de l'Ukraine. On respectera nos accords. Mais là, pour revenir à cette phrase de Louis Alliot, on va couper le robinet.
Le robinet.
Mais il s'en est expliqué. Jordan Bardella s'en est expliqué. Là, c'est facile de prêter de l'argent qu'on n'a pas. Non, mais on prête de l'argent que l'on n'a pas. C'est ce qu'il faut bien comprendre quand même. Là, c'est un prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'Union européenne. La France est caution pour 18 milliards d'euros. Quand on voit la préparation du budget, où on est en train d'essayer de faire la poche des retraités à hauteur de, on sait même pas, hein, 3 ou 6 milliards, là c'est 18 milliards. Alors oui, il faut aider l'Ukraine, mais pas avec de l'argent qu'on n'a pas.
Merci Philippe Ballard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National, côté politique, à 8h30, mon invité, ce sera le premier secrétaire du Parti Socialiste et candidat à l'élection présidentielle, Olivier Faure. Il est 7h50 et comme tous les matins, la proposition concrète, droite, gauche, on alterne. Ce matin, c'est la droite. Charles Consigny, bonjour Charles.
Bonjour.
Ce matin, vous voulez nous faire travailler le dimanche?
Absolument, je veux en tout cas permettre aux commerces qui le souhaitent d'ouvrir le dimanche.
Vous nous le dites dans un instant, mais n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, vous travaillez peut-être le dimanche, ou alors vous êtes commerçant, vous êtes patron, est-ce que vous voudriez que vos salariés bossent, y compris le dimanche après-midi? Vous nous appelez au 3216.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h51 sur RMC, le bonus, la chanteuse Olivia Rodrigo qui fait un geste pour ses fans.
Oui, pour leur porte-monnaie en fait, ou celui de leurs parents, si on est honnête. La chanteuse de 23 ans qui s'est imposée comme une grande star de la pop mondiale s'est tournée affiche complet en quelques heures, comme pour les deux concerts d'avril prochain à la Défense Arena. Les billets sont vendus entre 70 et 160 euros. Sauf que, pour sa nouvelle tournée, Olivia Rodrigo lance une opération spéciale des places à 25 euros seulement. Des billets tarifs réduits qui seront vendus par deux avec une particularité impossible de choisir où vous êtes assis. Ce sera de la fausse, de la très bonne catégorie, de la visibilité réduite. C'est comme un loto. Un loto Olivia Rodrigo. Les fans seront ravis après avoir vu les prix des places de concert s'envoler ces dernières années. C'est aussi une façon de lutter contre le marché de noir, de limiter la revente à prix d'or. Les inscriptions sont déjà ouvertes et la vente des billets à 25 euros, ça débute demain à midi.
RMC, Apolline Matin.
Proposition de gauche, proposition de droite.
Il est 7h52, comme tous les jours. La proposition de droite, la proposition de gauche. Ce matin, c'est la droite. Charles Consigny. Charles, dans la tribune dimanche, le patron des magasins Casino a plusieurs idées qu'il développe pour relancer le commerce des centres-villes. Et il propose notamment d'ouvrir davantage de boutiques le dimanche. Vous, Charles, vous voulez qu'on puisse travailler tous le dimanche ?
Alors, j'ai lu l'interview, effectivement, de ce patron, qui est très intéressante, parce qu'il explique, en fait, que ce qui n'est pas acheté dans les centres-villes le dimanche n'est pas acheté le lundi, il est acheté le dimanche, mais sur Internet. Et que donc, ça dynamiserait les centres-villes, dont beaucoup en ont bien besoin, que de pouvoir ouvrir le dimanche. Moi, je ne suis pas dans ces raisonnements très français, où on a le droit d'ouvrir entre 11h et 11h15, les jours impairs, si on a bien sa carte vitale, non. Je suis pour une autorisation totale et générale d'ouvrir les commerces le dimanche sur la base du volontariat, sur la base bien sûr de compensation. Je pense que si on a à travailler le dimanche, il faut qu'on ait les jours de congé en conséquence. Sur la base bien sûr d'un salaire plus élevé, je pense qu'on doit être payé deux fois plus le dimanche comme les jours fériés. Mais ce pays où on réglemente tout, je pense que ça devient un problème. Et puis je pense que en France, il y a même un problème d'ouverture la semaine. Je veux dire, baladez-vous un peu en France, essayez d'aller au restaurant à 14h02, vous verrez s'il n'y a pas un problème un peu plus général.
La cuisine est fermée.
Oui, voilà. Bah, je constate qu'on n'a pas la culture du service. Alors, et que ça nous ferait peut-être du bien de...
Pardon, Charles.
On en gagner un petit peu.
Charles, pardon, mais vous êtes naïf. Le volontariat, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? On le sait bien. Pourquoi est-ce que vous embaucheriez quelqu'un qui ne veut pas travailler le dimanche alors que vous avez des gens qui veulent travailler le dimanche? En tout cas, on sait très bien que les gens qui ne voudront pas travailler le dimanche ne seront juste pas embauchés. Et qui va trinquer? Bah, évidemment, les gens qui ont des familles, qui ont des enfants. Donc, en fait, tous ceux qui veulent avoir une vie privée et soigner leur relation avec leur famille vont être pénalisés. Deuxièmement, juste sur les salaires, très important aussi. On sait très bien que c'est encore une façon de dire aux gens, bah, attendez, bossez, vous allez vous enrichir un peu, tout ça, plutôt que d'augmenter les salaires, on va travailler un jour de plus. Donc, globalement, vous proposez une vie réglée uniquement par l'intérêt et le profit.
Non, parce que de toute façon, d'abord, il faut deux jours de congé dans la semaine, donc il n'y a pas un intérêt.
Oui, mais si vous ne le partagez pas avec vos proches.
Non, mais les gens n'ont pas tous la même vie de famille. Tout le monde n'a pas la même petite famille le dimanche avec un poulet rôti. Il y en a qui sont jeunes, qui n'ont pas encore construit leur famille, qui préfèrent travailler le dimanche payé double que le lundi payé normalement. Il y a quand même plusieurs cas de figure. Et les entreprises, la plupart, n'ont pas qu'un seul employé. Elles en ont plusieurs. Il y en a certains qui peuvent travailler le dimanche, d'autres
ne
peuvent pas.
Et là, vous nous parlez de la situation maintenant. Mais si ça se généralise, vous savez très bien que le dimanche, ça se banalise.
D'abord, le premier point.
Et Emmanuel.
C'est que il faut offrir la possibilité, mais il y a plein de commerces qui n'ouvriront pas le dimanche, tout simplement parce qu'ils se rendront compte que c'est pas rentable. Donc cette idée, et puis cette vision, alors je comprends pas, on est à front renversé, cette vision de la famille. qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Moi, je sais pas. Je lis Clémence Guettet. Je vois qu'on est dans une vie où il y a plein d'amis, plein de choses, machin. Enfin, je veux dire, l'idée de la cellule familiale.
En gros,
familiale,
vous voulez dire la cellule familiale et le déjeuner du dimanche, ça n'existe plus.
L'idée de la cellule familiale qui aurait des dimanches formidables en famille, etc. Enfin, ça concerne qui? Puis laisser les gens travailler. C'est ça insupportable, cette idée de savoir à la place des
j'ai
gens.
J'ai l'impression qu'il y a un front, eux. Emmanuel Le Chien.
Et moi, je termine avec une bonne nouvelle. Avec une bonne nouvelle, c'est que les centres-villes, ça va quand même nettement mieux. Vous avez presque 4 centres-villes sur 10 qui ont arrêté de se dévitaliser au cours des 5 dernières années.
Charles Consigny.
Moi, ce que je constate, c'est qu'aux États-Unis, au Canada, en République tchèque, en Hongrie, en Irlande, ça existe. Ces pays, aux dernières nouvelles, ne sont pas des bagnes à ciel ouvert. Et ce que je pense simplement, c'est qu'on doit dynamiser notre pays sur le plan économique. Moi, très souvent, je me heurte à des horaires fermés tout le temps. Voilà. Je vais vous dire, ce n'est pas l'objet de la chronique du jour, je suis pour le travail du dimanche et je suis aussi pour, enfin, je suis pour l'autorisation d'ouvrir les commerces le dimanche et je suis pour l'autorisation d'ouvrir les commerces 24 heures sur 24, comme ça existe dans énormément de grandes villes dans le monde. Ça, je sais qu'en France, ça paraît totalement, si vous voulez, fasciste de dire ça. Mais je pense qu'on doit changer complètement de braquet et nous remettre sur le pont. Donc ça commence avec ce genre.
Juste une chose, on ne travaille pas le dimanche depuis 321. C'est l'année depuis laquelle on ne travaille
321
plus.
321,
c'est une invention de Constantin, le premier empereur chrétien. Et Charles Consigny, ben aujourd'hui, eh ben, il est meilleur
absolument.
Que Constantin.
Absolument. Ça suffit les réactionnaires, là.
Vous n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas.
Le travail ira le dimanche. Il y a 17 ans. À partir de 2027.
Bon, la seule ici qui a bossé le dimanche, c'est moi. Hein, et pendant des années. Hein. Alors, je peux parler. Il est 7h57 sur RMC. On se retrouve dans un instant avec le journal de 8h à la une. C'est cette loi à 3 milliards d'euros pour prévenir les violences sexuelles. Ça s'appelle la loi intégrale. Elle est débattue à partir de ce matin par les députés. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Très belle journée à tous. Très bon lundi. Il est 8h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les députés font leur rentrée aujourd'hui à l'Assemblée et avant le chantier du budget, eh bien, ils se lancent dans l'examen de la proposition de loi contre les violences sexuelles. 3 mois après la dramatique affaire Liana, on va largement en parler. Nous irons en Allemagne dans ce journal où l'extrême droite est aux portes du pouvoir dans un de ses bastions de l'Est du pays après sa large victoire aux élections régionales. Et nous serons également à l'US Open de tennis avant le match d'Arthur Géa, la sensation française repêchée après les qualifications et qui jouera la nuit prochaine à 8e de finale.
3 mois après l'affaire Liana, place donc à la loi.
Oui, chacun se souvient de cette dramatique affaire qui avait mis en lumière les failles de notre système judiciaire. Et bien avant même de se lancer dans le chantier du budget, les députés discuteront à partir d'aujourd'hui en commission, puis le mois prochain dans l'hémicycle, de la proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles. Thomas Becker, du service politique, avec cette loi, l'idée eh bien, c'est de couvrir toute la chaîne de violence.
Oui, d'abord dans la police, avec la création d'une unité spéciale au sein de la police judiciaire pour traiter les cas de violences sexistes et sexuelles. Changement pour les méthodes d'enquête, revues pour préserver les preuves et rechercher d'autres victimes avant un potentiel classement. Côté justice, mise en place d'une juridiction spécialisée dans les tribunaux et les cours d'assises. À l'école, les enfants, dès la maternelle, auront un entretien annuel pour détecter des victimes potentielles. Le texte prévoit aussi un contrôle d'honorabilité pour toutes les personnes susceptibles d'être en contact avec des enfants. Une 60aine de mesures, de formation, d'écoute, d'accompagnement. Budget estimé 3 milliards d'euros par an. La ministre Aurore Berger juge que le coût de la réforme ne sera pas un obstacle, alors même que le gouvernement, à la veille du débat budgétaire, est en pleine recherche d'économies.
Et ça reprend comme avant les grandes vacances. De nouvelles manifestations sont annoncées devant les tribunaux partout en France en fin de journée. On attend toujours les résultats définitifs ce matin en Allemagne pour connaître l'ampleur de la victoire de l'AfD, le parti d'extrême droite aux élections régionales de Saxe-Anhalt. C'est un de ses bastions dans l'est du pays. L'AfD est donnée à 44% des voix, loin devant le parti du chancelier conservateur à même pas 18%. On va retrouver Clémence Dibou qui est sur place. Aucun parti d'extrême droite n'a dirigé de région en Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui donne une portée historique à ce vote. Et la secousse se ressent au niveau national.
Les dirigeants de la CDU, le parti conservateur au pouvoir et en Saxe-Anhalt et à Berlin, avaient prévu, en cas de large victoire de l'AfD, il faudrait une prise de parole non plus au niveau local mais au niveau national. Ça devrait être fait aux alentours de midi avec la prise de parole de Friedrich Merz, le chancelier conservateur, qui s'était engagé personnellement à faire baisser le score de l'AFD. On voit donc que ce résultat a des répercussions nationales. Nationales aussi des répercussions dans le camp des sociaux-démocrates avec des démissions en cascade, avec des résultats catastrophiques, moins de 5%. Désormais, eh bien, l'enjeu, c'est de faire une large alliance de barrage à l'extrême droite, des conservateurs jusqu'à l'extrême gauche. Ça reste encore très compliqué vu les scores très élevés de l'AFD. L'AFD qui a expliqué qu'elle essaierait de faire des alliances, mais qu'elle n'avait aucune envie de faire aucun compromis sur son programme. Et ses scores sont tellement hauts qu'elle est à quelques sièges de pouvoir gouverner seule.
Et alors, cette élection en Allemagne anime depuis hier soir la campagne présidentielle chez nous en France. Romain Hougan, direct ce matin. La gauche et le centre s'inquiètent de ce résultat.
Oui, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. C'est une catastrophique démonstration de l'aveuglement des politiques européennes centristes, écrit le candidat LFI à la présidentielle sur ses réseaux sociaux. Ce n'est plus un avertissement, c'est un ordre de mobilisation générale qu'il faut lancer, écrit quant à lui le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui sera d'ailleurs l'invité d'Apolline de Malherbe dans une demi-heure. Au centre de l'échiquier politique, c'est Gabriel Attal, chef de file et candidat du parti présidentiel, qui fait part de ses préoccupations. Ce résultat est un vrai signal d'alarme dont il faut tirer les enseignements, dit-il. Enfin, du côté du Rassemblement National, autrefois allié européen de l'AFD, silence radio depuis hier soir. Ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella n'ont pour l'heure commenté ce résultat.
La campagne présidentielle est aussi animée par Marine Le Pen, qui écrit au Buralis une lettre publiée hier soir dans laquelle elle défend le gel des taxes sur le tabac au moment où la Confédération des Buralistes appelle à la mobilisation face à la hausse des prix et l'essor du marché parallèle. C'est aussi la campagne, elle est aussi animée par cet appel lancé par le patron des magasins Casino pour aider les commerçants des centres-villes et des zones rurales. En expliquant que les commerçants se détournent de plus en plus des grandes surfaces loin des centres, la preuve ici, vous allez entendre à Aix-en-Provence avec Charlotte Guerre.
Ses courses du quotidien, Jérôme préfère les faire à pied et en ville. Il a en horreur les grandes surfaces.
Mais on perd trop de temps. D'abord, c'est la circulation, c'est du stress. Passer plus d'une heure dans un supermarché, c'est pas possible.
Ce professeur de lettres a même ses petites habitudes.
Les produits d'entretien, je vais les prendre là. Les produits du petit déjeuner, je vais les prendre là, les céréales, les produits, voilà. J'ai ma petite liste, mais ça, c'est aussi ce qui s'est fait avec le temps.
Avec des loyers moins élevés et plus de stocks, les hypermarchés restent attractifs avec des prix plus bas, même s'ils sont en dehors des villes.
En mettant même 20 euros de gasoil, c'est plus rentable de partir loin dans une grande surface que partir à côté faire mes courses.
Je fais mes courses avec un drive parce que, en fait, les magasins de proximité sont super chers.
Ce trentenaire n'a pas le permis. Lui se fait livrer ses courses directement chez lui.
Même si le coût des produits est un peu plus élevé sur une livraison, il reste quand même moins élevé que celui dans les petites supérettes.
Mais il l'admet, les commerces de proximité restent pratiques pour les courses d'appoint, un enjeu d'autant plus important que plus de 6 communes sur 10 ne disposent aujourd'hui d'aucun commerce de détail.
C'est la très belle histoire de l'US Open de tennis qui a lieu en ce moment, vous le savez, aux États-Unis à New York. Il y reste un Français, c'est le jeune Arthur Géa, âgé seulement de 21 ans. Il s'était même pas qualifié pour le tournoi final, repêché à la dernière minute après un abandon. Il joue crânement sa chance depuis et il va donc se retrouver la nuit prochaine à disputer un huitième de finale contre un joueur néerlandais. Eric Salio, vous couvrez l'US Open. On imagine que ses proches et en premier lieu sa maman sont fiers.
Oui, Cécile Géa a quitté son petit village du Vaucluse pour rallier New York. Et même si elle se refuse à voir les matchs en tribune, elle reconnaît les qualités de son fils.
Il est très travailleur, il est besogneux, il aime la difficulté, il aime les challenges. Il a monté le Ventoux avec son père alors qu'il n'était pas du tout entraîné. S'il pouvait, il monterait le Mont Blanc et pourquoi pas l'Everest. Il aime se challenger sur des grosses performances. C'est un garçon qui a beaucoup d'émotions et qui vit avec ses émotions.
La maman d'Arthur Géa sait que l'atmosphère est unique à Velleron, près de Carpentras.
Il y a un bar où il y a l'écran géant. Personne ne dort le jour des matchs parce que moi j'ai halluciné. Jusqu'à 3h du matin, je recevais des messages. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous dormez pas? Ah non, non. On a regardé les matchs. Arthur, c'est un enfant du village. Mon mari est allé à l'école dans ce village. C'est vraiment une grosse communauté et tout le monde est très fier d'Arthur. Et ça, c'est génial.
Ce soir, c'est toute la France qui vibrera pour le 8e de finale d'Arthur Géa face au néerlandais Botik van de Sandschoop.
Bon, et puis on se demandait à quoi allait ressembler la saison en football de l'Olympique de Marseille sans aucune recrue, vous le savez, durant l'été. Eh bien, on en a une petite idée hein, depuis hier soir et la nouvelle défaite des Marseillais battue 3-2 par le Paris FC. Ça se passait au Vélodrome. Tiens, qu'en dit l'entraîneur de l'OM, Bruno Genesio?
On a fait une entame catastrophique. Je trouve qu'après, on a pris le dessus, on a plutôt maîtrisé. Et après, on en a un petit peu tout confondu jusqu'à la mi-temps. C'est un peu précipité, on a manqué de lucidité. On a laissé beaucoup trop d'espace à cette équipe. qui a exploité au maximum toutes les erreurs qu'on a pu faire, parce qu'on ne peut pas espérer un autre résultat avec le nombre d'erreurs défensives que l'on a faites.
Allez, c'est Monaco qui est en tête de la Ligue 1 après trois journées.
Il est 8h08 sur RMC. Vous parliez, tiens, à l'instant, Quentin, de cette proposition. Travailler le dimanche, c'est ce que demande le patron de Casino. Il y a Pierre qui nous appelle au 32-16 et qui voulait réagir. Bonjour Pierre.
Bonjour à toutes.
Pierre, le poissonnier quasi officiel, on peut le dire, d'Apolline Matin. Vous êtes poissonnier, Pierre. Vous tenez les marchés, notamment à la Garenne-Colombes. Pierre, vous, ça vous ferait de la concurrence déloyale si tous les magasins sont ouverts le dimanche?
Alors oui, un peu quand même, parce que déjà ça, ils sont ouverts depuis ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ouverts le matin, Monoprix, Intermarché. Ouais. Mais le problème, c'est que dans ces petits magasins, ils ont pas de personnel. C'est des caisses automatiques, il y a personne qui travaille, il y a qu'une seule personne qui reste, un surveillant. Et si ça peut amener des gens à avoir de l'argent en plus et travailler le dimanche pour ceux qui veulent, ben moi j'estime qu'il y a pas
de
problème.
Vous travaillez le dimanche depuis des années.
Ah moi, ça fait 35 ans que je fais ça moi.
Vous êtes toujours volontaire, pardon, mais c'est la question aussi qu'on posait tout à l'heure, c'est que on peut être volontaire au début, mais est-ce qu'à un moment ça devient pas une souffrance de travailler le dimanche?
Pas du tout.
Non.
C'est au contraire.
Ça vous va?
Ah moi ça me va, les jours fériés je peux travailler tous les jours, et de toute façon sur le marché on travaille tous les jours fériés et tous les week-ends. Il y a pas de, c'est des règles de du marché. Ça
et de fait été. J'imagine qu'aujourd'hui c'est relâche quand même, Pierre. Le lundi, on se repose?
Lundi, aujourd'hui, on repose.
Bon,
et c'est bien parce que tout le monde part à l'école, ils sont tous au travail, je suis tout seul dehors.
C'est votre journée tranquille. Merci Pierre, en tout cas, d'être venu réagir au 32-16. Pierre, qui est poissonnier, notamment sur le marché de la Garenne-Colombes. 8h10 sur RMC. Et ce sont les députés qui, en commission, vont examiner à partir d'aujourd'hui la loi dite intégrale pour lutter contre les violences sexuelles. Anne-Cécile Maillefer est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fondation des femmes. Vous luttez pour les droits des femmes contre les violences. Cette loi, elle pourra vraiment sauver enfin des femmes et des enfants?
Oui, cette loi, elle est extrêmement importante et je ne suis pas la seule à le penser, hein, puisqu'on est quand même des centaines de milliers à s'être mobilisés, en particulier depuis le meurtre de la petite Liana en juin. C'est un mouvement qui est extrêmement populaire. Cette loi, on la souhaite. Il y a 350 000 signataires de la pétition sur loi intégrale et ce soir, on reprend parce qu'on ne lâche pas
ce
rien.
Ce soir, vous relancez heures, aussi la mobilisation, vous nous le dites. Exactement. Dans un instant, 8h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h15 sur RMC et sur RMC Story. La mobilisation reprend aujourd'hui pour les droits des femmes et contre les violences sexuelles et sexistes. Bonjour Anne-Cécile Maillefer.
Bonjour.
Vous êtes toujours avec nous, vous présidez la Fondation des femmes. Deux points à voir avec vous. La mobilisation ce soir à nouveau dans les villes de France. Mais d'abord, cette loi, la loi dite intégrale, 3 milliards d'euros pour mieux lutter contre toutes ces violences. Est-ce que vraiment ça peut changer les choses?
Oui, c'est hyper concret. C'est par exemple, nous ce qu'on souhaite, c'est que tous les enfants puissent avoir un entretien annuel pour savoir s'ils ont été victimes de quelque chose. C'est déjà évidemment pour repérer hein, les enfants qui sont en train de subir des violences, mais c'est aussi un message d'alerte à tous les pédocriminels de dire en fait, nos enfants comptent, les enfants comptent, on s'intéresse à eux, à ce qu'ils vivent et donc ça ne pourra pas rester impuni. C'est aussi par exemple le fait de pouvoir avoir un arrêt de travail pour pouvoir accompagner son enfant ou alors soi-même pour pouvoir effectuer des démarches. Je prends un exemple très simple. Vous avez peut-être en tête l'histoire de la petite Milly qui a été retrouvée quasiment morte après avoir été violée en Réunion. Bah, sa maman, elle est ouvrière au 3-8. Et en fait, quand elle a dû l'accompagner pour aller au commissariat, pour aller voir les psychologues, etc., c'est des démarches à n'en plus finir. Évidemment qu'en fait, si elle avait eu droit à un jour d'arrêt avec son employeur, ça aurait été à des jours d'arrêt avec son employeur, ça aurait été beaucoup plus simple. C'est aussi tout simplement une fois qu'elle a porté plainte, est-ce qu'il va y avoir des enquêtes ou pas? Le ministre de la Justice lui-même disait qu'il y avait 85 000 dossiers fantômes dans notre pays. C'est-à-dire 85 000 dossiers où quand on porte plainte, il ne se passe rien.
Mais nous, on veut des actes d'enquête obligatoires. Comme la maman de Rosa, en marge de l'affaire Liana, il y a aussi cette affaire, l'affaire Rosa. Mmh. Rosa, qui a été victime du même présumé assassin, violeur de la petite Liana. Mmh. Elle a porté plainte, elle a été, elle s'est mobilisée, elle est retournée régulièrement voir les enquêteurs. Elle leur a dit, mais ça en est où? Je vois que Jérôme Maréla est sur les réseaux sociaux, qu'il tente à nouveau de rentrer en contact avec ma fille. Et on l'a envoyée bouler. même on lui a dit ça. Ne venez plus parce on que l'a sinon même on portera accusé. Plainte contre vous madame.
On l'a même accusé de harcèlement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là tous les lundis parce qu'elle appelait tous les lundis le commissariat et nous tous les lundis on est là et on ne les lâchera pas à l'image un peu de son courage et du courage en général de toutes les personnes qui font face à ce système qui est absolument scandaleux. Je veux dire, il faut qu'on ouvre les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui en France pour les femmes et les enfants quand ils portent plainte. Je vous le disais tout à l'heure, 85 000 dossiers fantômes, c'est pas des enfants fantômes, c'est pas des violeurs fantômes en fait. C'est à l'instant où on se parle, à vous et moi, ce sont des enfants qui sont en train d'être violés par des hommes contre lesquels il y a déjà des plaintes, contre lesquels il y a déjà eu des signalements, contre lesquels des parents ou des proches ont déjà fait ce qu'il faut. Donc ça, ça ne peut plus durer. Et pour ça, on a besoin d'une réponse intégrale. C'est-à-dire qu'on en a marre des petites...
Ça veut dire quoi, intégrale?
Intégrale, ça veut dire qu'il y en a marre des pansements sur les jambes de bois, il y en a marre des coups de com à deux balles. Nous, on veut que la vie des femmes et des enfants, elle change, que les enfants soient protégés. Pour ça, il faut de la prévention. Pour ça, il faut une réforme en profondeur de la police.
Mais quand vous voyez les premiers procès sur le périscolaire à Paris, qui pour certains finissent en pchit, il n'y a pas de condamnation. Comment est-ce que vous réagissez?
Mais je pense que c'est ça qui met en colère les dizaines de milliers de Français et de Françaises qui manifestent devant les tribunaux.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que les juges, à la fin, ne prennent toujours pas la mesure?
Il y a oui, effectivement. La société ne prend pas la mesure. Enfin, la société, je trouve qu'elle se réveille un peu. C'est plutôt les politiques et les institutions qui ne prennent pas la mesure du scandale, en fait, devant lequel nous nous trouvons. Et donc, effectivement, il faut que ça s'améliore. C'est pour ça qu'on demande une justice spécialisée. C'est aussi dans la loi intégrale. Et c'est pour ça qu'on demande, entre autres, 3 milliards pour qu'il y ait vraiment les moyens d'avoir des bonnes enquêtes, d'avoir des bons procès et de faire que quand les victimes, elles demandent justice, eh bien, elles puissent avoir justice.
Anne-Cécile Maillefer, vous le disiez, on est là tous les lundis soirs, c'est-à-dire?
Alors, on est là ce soir, à 19h, place Vendôme et dans plus de 100 villes de France. C'est-à-dire qu'en fait, vous rendez compte que ce mouvement qui a déjà mobilisé tout le mois de juin, eh bien, nous reprenons et nous reprenons extrêmement fort et on ne les lâchera pas parce que la vie des femmes et des enfants compte.
Donc, ce soir, 19h, à Paris, donc place Vendôme devant le ministère de la Justice, mais partout ailleurs, devant les tribunaux.
Partout ailleurs, des petites, des grandes villes, des villages, et vraiment tout le monde se mobilise. C'est important. Il s'agit de la vie des enfants et des femmes en France. On ne les lâchera pas. Une loi intégrale, votée intégralement avec un budget intégral.
Merci Anne-Cécile Maillefer d'avoir répondu à nos questions. Présidente de la Fondation des Femmes. Il est 8h18 sur RMC, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Tous les jours de manche.
Et bonjour à tous.
Arnaud Demanche qui est avec nous.
Bonjour Apolline, Mathieu, Arthur, présent. Manu. Alors Apolline, vous le savez car vous êtes une femme d'info, une femme d'affaires, une femme Barbara Gould. Ce week-end, c'était la braderie de Lille.
C'est une pub pour les
Delphiens. Ah, je me demandais. Ce week-end, c'était la braderie de Lille, c'est ça l'actu. Et là-bas, vous pouviez acheter des tableaux de clowns tristes, des poupées chauves à qui il manque un bras, des figurines de vaches en céramique, des cassettes vidéo de Smaïn, des chaussures de ski des années 70, un trivial poursuite de 87 avec des questions comme qui est l'actuel Premier ministre de Tchécoslovaquie, des cendriers Ricard volés dans des bistrots, des livres de François Léotard, oh chouette, dit Manu le chiffre, des CD de titres de Too Unlimited, c'est un vieux groupe Arthur, des puzzles auxquels il manque des pièces, ou bien des Santiago qui sentent l'odeur des pieds de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'Emmaüs a refusé, vous pouvez le trouver à la braderie de Lille, sur le trottoir. Et c'est aussi pour ça que sur le trottoir, il y avait aussi plein de candidats à la présidentielle avec leurs idées d'occasion. Comme Jean-Luc Mélenchon, la collectivisation, c'est super, faut faire comme au Venezuela, ça cartonne. Ou Gabriel Attal,
j'ai un super programme macroniste d'occasion.
Et alors Gabriel Attal, ce week-end, authentique, il a enchaîné la braderie de Lille. Après, il a fait une fête populaire à Toulouse et hier, la fête des moissons à Rouen. Ah, ça va, c'est cool le boulot, c'est tranquille. Tous les week-ends, aller bouffer des frites et du pâté. On va finir par le retrouver en boîte de nuit.
Bonsoir, je peux avoir un mojito, hein? C'est parce que je fais campagne en fait, c'est ma présidentielle. Et je reviens de la braderie de Lille.
Ma présidentielle.
Je reviens de la braderie de Lille. J'ai la tête comme ça. On a essayé de me refourguer un disque de la Grande Sophie à 1 euro et un programme de la Grosse Marine à 2 balles, je suis éclaté. En tout cas, à force de manger des saucisses et boire des bières, dans 3 mois, Gabriel Attal, c'est François Hollande. En fait. Il va faire 104 kilos. Il va arriver dans le face-à-face défoncé. Gabriel Attal, bonjour.
Le petit bonhomme en moussin. Ips. Ips. Excusez-moi, j'ai le hockey. Ips. Ips. J'ai passé la nuit à bosser avec Patrick Sébastien et une fanfare. J'ai bu trop de panaché. Je suis
défoncé. C'est bon. Merci, Gabriel Attal. Allez, c'est la rumeur du moment. Apparemment, rien ne va plus entre Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Oui, sortez les pop-corns. On va se régaler pendant cette présidentielle. C'est les feux du désamour. Et dans les épisodes précédents, Marine a douché les espoirs du jeune Jordan en reprenant sa place. De plus, rien ne va plus dans le couple. Jordan, finalement, je vais me présenter. Mais tu peux pas me faire ça. Je vais passer pour un loser. Je vais me faire larguer par Maria Carolina de Bourbon, des deux Siciles, des trois petits cochons et des 12 travaux d'Astérix. Alors, selon Libé, Jordan Bardella aurait quitté une réunion après que Marine Le Pen ait proposé de donner plus de visibilité à Marion Maréchal. Eh ben, déjà qu'il était contre le regroupement familial, ça va pas s'arranger. Il découvre qu'il s'appelle Bardella, en fait. Ouais. Il s'appelle pas Le Pen et il bosse pour un clan. Là, maintenant, sa seule solution, c'est de quitter sa princesse et de se remarier avec Jeannie Le Pen, la veuve de Jean-Marie, 94 ans. Vous rigolez, mais Macron, il le ferait. Mais oui, 64 ans de différence. Qu'est-ce que c'est quand on s'aime? Moi, je la trouve charmante, Jeannie. Mais Brigitte Du coup, Bardella a fugué ce week-end à Londres pour faire honte à Marine, entraînant avec Nigel Farage, un pro-Brexit. Et là-bas, il a signé un accord promettant que la France reprendrait les immigrés clandestins que les Anglais veulent pas. Donc, il a décidé de se rebeller, c'est en clair. Fait. Lui, quand Marine l'engueule, il va signer des papiers disant qu'on est d'accord pour accueillir des clandestins. Dans 8 jours, il débarque en Algérie. Salam les Royas. En fait, on va ouvrir un centre d'accueil à Hénin-Beaumont. Donc vous nous les envoyez. Dans 6 mois, il rallie Mélenchon.
Sinon, il y a la comédienne Mimi Mathy qui a choqué en prenant la défense de son ami Patrick Bruel.
Oui, elle réagissait à l'annulation de la tournée de son ami Patrick. Elle a déclaré « Patrick Bruel est un séducteur qui a été plus harcelé que harceleur ». Alors, elle est en fauteuil roulant maintenant, hein, vous avez vu. Pas à cause de Bruel, hein.
Non. Pas
en moi, tout cas, pas j'ai hâte de regarder le prochain Joséphine Ange Gardien. Bonjour Patrick, je suis ton ange gardien. Que puis-je faire pour toi? Il y a 32 connasses qui portent plainte contre moi, qui essayent de me casser les noix. 32. Je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Demande peut-être à un autre ange gardien.
Bonsoir, je suis Jacques
l'ange. Jacques Lange gardien. 32 plaintes, mais c'est rien. Mon ami Epstein en avait des milliers. Réjouis-toi, le bonheur va revenir dans l'île aux enfants. C'est tous les jours de printemps. Allez,
oh non.
À demain.
C'est fini là.
C'est fini. À la la suite demain. Je sortirai un coffret DVD.
Allez, dans un instant, la politique. Il faut que je me remette la tête dans le bon sens. Mon invité, c'est Olivier Faure. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste et il est candidat à l'élection présidentielle via la primaire de la gauche. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h27.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Réaction en France au lendemain de la victoire de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand dans la région de Saxe-Anhalt. Le moment est grave, écrit le ministre de l'Europe Benjamin Haddad. Résultat et démonstration catastrophique des politiques centristes, fustige Jean-Luc Mélenchon. Un signal d'alarme dont on doit tirer les enseignements pour l'élection présidentielle à venir, selon le candidat Gabriel Attal. Réclamé depuis des années par les associations, la loi intégrée contre les violences sexuelles arrive à l'Assemblée nationale. Première étape en commission spéciale, c'est-à-dire des députés qui vont en affiner le contenu. Elle sera ensuite examinée dans l'hémicycle au premier jour de la rentrée en octobre. Deux militants d'ultra-droite devant les juges à partir d'aujourd'hui. Le procès de l'assassinat de Federico Martina Rambourou s'ouvre aujourd'hui. C'était il y a 4 ans, l'ex-rugbyman était abattu en pleine rue à Paris. Un candidat de plus dans la course à la présidentielle, c'est le patron des communistes, Fabien Roussel, désigné par un vote de son parti à 72%. À l'élection de 2022, il avait obtenu seulement 2,28% des suffrages. La météo avec ses 6 départements du Sud qui sont en vigilance orange canicule aujourd'hui. L'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, l'Ardèche et la Drôme. Il fera de 22 degrés à Brest jusqu'à 36 à Lyon avec pas mal de nuages cet après-midi sur le Nord-Ouest.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Tout de suite, le face-à-face sur RMC avec Olivier Faure, le patron des socialistes.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour, Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions. D'ailleurs, c'est la première fois que vous vous exprimez ce matin dans une interview depuis votre annonce de candidature la semaine dernière aux 20h. Vous êtes premier secrétaire du Parti Socialiste, vous êtes député de Seine-et-Marne et vous êtes candidat à l'élection présidentielle via la primaire socialiste. Beaucoup de questions à vous poser, mais d'abord, je voudrais savoir si vous connaissez l'expression en anglais « an elephant in the room ». Ça vous dit quelque chose ?
Oui, bien sûr.
Hein, c'est littéralement un bon gros éléphant qui est au milieu de la pièce, qui est absolument omniprésent, mais dont personne ne parle. Ça vous dit quelque chose ?
À qui pensez-vous ?
Est-ce qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce, là ? Quelqu'un qui serait omniprésent et dont vous faites tous semblant de ne pas voir qu'il est là ?
Je le vois.
Oui, vous le voyez. Et il prend de la place.
Il prend sa place et il a choisi un autre chemin qui n'est pas le mien. Son chemin est celui d'une alternative plutôt au centre, pour ne pas dire à droite. Et moi, je ne me suis pas engagé au Parti Socialiste pour...
On a tous compris que vous parliez de François Hollande.
Mais je vais peut-être faire ma phrase, vous dire que...
Et vous dites qu'il est de droite ?
Non, j'ai dit qu'il cherchait en fait aujourd'hui sa voie avec une alliance entre droits. Et moi, je ne me suis pas engagé au Parti Socialiste pour appliquer 14 ans après le programme de François Fillon.
Là, vous parlez sans doute de la TVA sociale ?
Ben, par exemple, oui, je ne suis pas sûr que prendre l'impôt le plus injuste comme référence, ce soit la bonne façon d'entrer dans le débat.
Alors reprenons les choses dans le bon sens, parce qu'évidemment, je m'amusais avec vous sur cette expression anglaise, mais parce que j'en voyais pas d'autres. Littéralement, de fait, un éléphant, c'est aussi un membre du Parti Socialiste. Historiquement, c'est comme ça qu'on les appelait. Au fond, depuis que vous vous êtes vraiment lancé dans cette campagne, à la fois vous, Raphaël Glucksmann, dans cette campagne de la primaire, il y a François Hollande qui prend en effet toute la place, qui est en campagne sans le dire, qui fait des propositions, qui lance un livre, qui donne des interviews, comme si la primaire n'existait pas.
Il a fait ce choix, ce n'est pas le mien, vous le savez, moi j'ai fait un choix qui est un choix démocratique. J'ai voulu cette primaire, j'ai voulu qu'elle ait lieu, parce qu'il n'y a rien de pire que les primaires sauvages. Regardez ce qui se passe à droite, des candidats qui se multiplient sans que personne ne connaisse le terme et le moment où ils sont capables peut-être de se mettre d'accord pour avoir un seul candidat. Et donc la primaire, elle a cette vocation-là, permettre à un camp politique de dire oui, il y a des différences, oui, il y aura même des divergences entre les candidats, mais elles sont tranchées par des électrices et des électeurs, et j'appelle toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans nos combats à nous rejoindre en allant sur le site du Parti Socialiste et à s'inscrire pour cette primaire et faire en sorte que le plus grand nombre puisse y venir et donner une légitimité très forte à celui ou celle qui sera finalement élu.
On va revenir sur ce que vous appelez les différences, voire les divergences avec les autres, mais puisque vous répondiez immédiatement à propos de François Hollande que, semble-t-il, il prenait des décisions qui rappelaient les programmes de François Fillon, vous faites donc référence à cette proposition de François Hollande, il parle d'une TVA qu'il passerait de 20 à 24% et en échange, une TVA à zéro sur un certain nombre de produits de première nécessité. Pour vous, ça, c'est une mesure de droite ?
Je ne vais pas la qualifier, je vais dire simplement que c'est une mesure dont on sait qu'elle est en réalité nocive pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Pourquoi ? Parce que si vous baissez la TVA à 0%, y compris sur les produits de première nécessité, qui sont pour l'instant autour de 5,5, eh bien la réalité, c'est que ce sera très vite rattrapé et que ce seront les marges des entreprises que vous réaliserez à travers cette TVA qui aura baissé, mais que ça n'aura pas de conséquences sur les consommateurs. Et moi, je préférerais qu'on agisse autrement. Et surtout qu'on ne rattrape pas cette baisse de TVA chez les uns en faisant en sorte qu'elle est en fait qu'elle soit
rattrapée par 4 points de François plus Hollande, sur la TVA. Non seulement il a été président socialiste, mais il est toujours membre du Parti socialiste.
Mais par ailleurs, moi je ne comprends pas cette logique qui n'est pas d'ailleurs exclusive à François Hollande, qui est de dire que désormais il faudrait que les salaires puissent augmenter simplement par un canal, celui de la baisse des cotisations. C'est ça l'objectif au départ, c'est de dire on va faire baisser les cotisations. Mais les cotisations,
et
c'est quoi ?
Compensé donc par cette hausse de TVA.
Voilà. Et c'est quoi les cotisations ? Les cotisations, c'est tout simplement ce qu'on appelle le salaire différé. C'est quand vous avez un accident du travail, c'est quand vous êtes malade, c'est quand vous êtes à la retraite. Cet argent-là, il ne sert pas à rien. C'est pas de l'argent qui vous est prélevé pour jamais, c'est de l'argent qui vous est préservé soit pour vous garantir contre les difficultés, les accidents de l'histoire, de votre existence, ou au contraire, le permettre votre départ à la retraite dans de bonnes conditions.
Mais comment vous ferez-vous pour augmenter les salaires des Français ?
Tout simplement, la première chose, c'est que, en fait, regardez ce qui se passe sur le partage de ce qu'on appelle la plus-value depuis des années et des années. Aujourd'hui, le capital engrange essentiellement et les salariés ont la part la plus modeste. Eh bien, moi, je souhaite que, par exemple, quand on distribue 1 euro de dividende, eh bien, il y a au moins 1 euro qui est reversé aux salariés. Que ce soit équitable, parce qu'il n'y a pas de raison particulière de penser que le capital doit se servir.
Ça veut dire que ce serait une sorte de participation?
Bah, participation, intéressement, salaire. Et donc,
1 euro pour les actionnaires, 1 euro pour les salariés.
Absolument. Il n'y a aucune raison que ce partage-là ne soit pas équitable. Et donc, voilà une première solution. Je souhaite que le SMIC soit augmenté, parce que vous le savez très bien, depuis les Gilets jaunes, et bien avant les Gilets jaunes, on le sait bien, aujourd'hui, travailler au SMIC, parfois même à temps partiel, ça ne permet pas de vivre. Et donc, tous ces gens qui sont à un moment révoltés pour dire « on travaille, mais on ne peut même pas vivre, comment voulez-vous que l'on fasse ?» Eh bien, moi, je crois qu'effectivement, il faut augmenter le SMIC. Il faut faire en sorte aussi qu'au-dessus du SMIC, il y ait une conférence salariale. Vous savez qu'il y a eu un rapport sénatorial qui dit qu'il y a 211 milliards d'euros de cadeaux, enfin, ou d'aide, pardon, d'aide aux entreprises versées chaque année. Eh bien, qu'il y ait une conférence tripartite, patronat, syndicat, État, au cours de laquelle on vienne conditionner les aides aux entreprises à des efforts sur les salaires, sur la formation, sur l'emploi, faire en sorte qu'il y ait à un moment une forme de contrepartie qui soit donnée à ces aides qui sont des aides massives. Et à partir de là, on a de quoi effectivement faire en sorte que tout le monde puisse être augmenté, parce que aujourd'hui, les Français ne vivent pas bien.
Vous parlez de l'augmentation du SMIC, vous parlez de l'augmentation des salaires, et dans le même temps, vous demandez 15 euros à ceux qui veulent juste voter pour la primaire?
Non, moi, j'ai pas demandé 15 euros, j'ai dit 2 euros. J'ai malheureusement
vous avez
été...
perdu.
J'ai, voilà, comme vous le dites, on a eu un vote. Le vote a tranché pour 10 euros tarif social, 15 euros tarif normal. Et ce n'était pas mon point de vue, parce que moi, je cherche au contraire à ce que nous ayons un espèce de game changer en mauvais français. C'est-à-dire que nous puissions, dans cette élection, dire qu'à un moment, il y a des centaines de milliers de gens qui se sont rassemblés et qui ont fait un choix.
2 euros, c'était le prix de la primaire socialiste de 2011, qui avait ensuite porté François Hollande au pouvoir. 15 euros, vous avez effectivement perdu la partie sur ce combat-là. Qui a insisté pour 15 euros? Il se murmure que c'est Raphaël Glucksmann qui était en faveur des 15 euros, vous des 2 euros. Ça dit quelque chose de votre vision de la gauche, de ceux qui doivent voter?
Ça dit quelque chose, bien sûr. Ça dit quelque chose parce que moi, je considère que... nous ne pouvons pas revenir à un vote censitaire. On ne peut pas faire un choix sociologique des gens qui peuvent voter et ceux qui ne peuvent pas voter. Donc j'espère que si d'autres nous entendent ce matin, ils feront peut-être le choix dans les prochains jours de dire effectivement on s'est trompé, on va baisser le tarif.
On peut revenir en arrière ?
Ah ben on peut toujours revenir en arrière.
Donc là en fait vous êtes en train de lancer un appel à Raphaël Glucksmann en disant renonce quoi, renonce aux 15 euros, mettons-nous d'accord sur 2 euros.
Ah ben oui bien sûr, je souhaite qu'effectivement on puisse se mettre d'accord sur 2 euros. Mais
C'est encore possible donc ?
C'est possible jusqu'au dernier jour, en réalité. Mais je ne le crois pas, parce que je suis revenu tout l'été sur cette question, en essayant de faire bouger les positions des uns et des autres.
Mais pourquoi ce tarif ?
Ben, je crois que c'était la volonté de dire qu'il fallait un engagement puissant, et donc que ça supposait...
Mais est-ce que ça exclut une partie des gens qui voudraient voter, vous pensez ?
Ben, forcément. J'étais ce week-end à faire le tour des associations pour les forums de rentrée. Dans ma circonscription, et vous pouvez l'imaginer, nombre de ceux qui me soutiennent depuis longtemps veulent voter. Mais quand on leur dit que c'est 10 ou 15 euros, ils disent bah c'est beaucoup, parce que c'est la rentrée des classes, parce que il faut acheter des vêtements pour les enfants, les fournitures scolaires, il faut c'est la rentrée pour tout le monde, et donc c'est très compliqué de rajouter effectivement 10 ou 15 euros à ce qu'on a déjà acheté.
La question du tarif, la question de qui participe, on évoque le nom de Mathieu Pigasse ou de François Ruffin pour pouvoir y participer. Est-ce qu'ils ont pris attache avec vous en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste? Est-ce que vous savez s'ils commencent à essayer de recueillir des parrainages?
Alors, je ne vais pas entrer dans les détails sur les parrainages, parce que les parrainages s'appliquent uniquement pour les socialistes. Chaque parti a ses propres règles. Et donc, si François Ruffin était admis dans cette primaire, les règles d'admission seraient en réalité celles de son parti. Voilà, moi ce que j'ai dit...
Mathieu Pigasse, il n'a pas de parti ? Est-ce qu'il pourrait quand même venir ?
Moi ce que j'ai dit aux uns et aux autres, c'est que pour ma part, je ne m'opposerai à aucun. Je souhaite que cette primaire, vous le savez, moi je souhaitais une primaire qui aille de Ruffin à Glucksmann, permettre que toute la gauche sociale
donc
et écologique
puisse se
retrouver. Donc
vous souhaitez que François Ruffin soit candidat? Vous estimez que ça ferait partie de...
Oui, ça fait partie de la logique que je défends depuis longtemps. Il faut à la fin un seul candidat ou une seule candidate qui permette de représenter cet arc qui est un arc démocratique, social, écologique et qui permette d'avancer et de gagner cette élection présidentielle.
Est-ce que Mathieu Pigasse est dans cet arc?
Je le crois, oui.
Est-ce que vous savez s'il est vraiment tenté sincèrement et sérieusement par cette
tumeur ? Ça, vous lui poserez la question, mais il m'a pas dit s'il voulait y rentrer. Mais ce que je sais, c'est que si on me pose la question à moi, est-ce que je suis favorable à l'idée de bloquer à l'entrée de la boîte de nuit et faire videur celles et ceux qui veulent y rentrer ? Réponse pour moi, c'est non. Je vous l'ai dit, moi je veux que le plus grand nombre puisse participer à la primaire comme électeur, et je souhaite qu'il n'y ait pas de barrage à l'entrée pour ceux qui veulent y rentrer.
Vous avez vos parrainages
comme candidat.
Vous avez vos
parrainages. Oui, mes parrainages.
Vous, c'est bon, ça y est.
Oui,
tout est officiel, vous avez le tampon, vous avez le...
Le tampon, ce sera le 15, mais enfin, effectivement, les parrainages, c'est fait.
C'est fait. Les débats, il y a eu débat sur les débats. Vous souhaitez le plus de candidats, le plus d'électeurs, le plus de débats ?
Absolument. Je souhaite que... Vous savez, une présidentielle, ce n'est pas simplement un long fleuve tranquille et on n'est pas nommé président de la République. C'est une confrontation qu'il faut assumer, accepter. Il faut être dans le combat et défendre ses positions, défendre ce que l'on croit. Et donc, moi, je souhaite effectivement qu'il y ait 3 débats, puisqu'il y a 3 offres qui nous sont faites
dont
par votre
celle
chaîne,
de BFM
par TF1, LCI et par le service public. Et donc, je souhaite que dans cette à ces 3 propositions, nous répondions favorablement et que le débat puisse avoir lieu et que nous puissions, y compris, défendre nos positions.
Pardon, mais j'ai quand même l'impression qu'en creux, vous égrenez que, voilà, il y en a un qui a mis la barrière à 15 euros, c'était pas vous, c'était Raphaël Glucksmann. Il y en a un qui, semble-t-il, rechigne à débattre aussi souvent que nécessaire pour créer effectivement ce grand élan populaire que vous souhaitez, c'est Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais vous poserez la question à l'intéressé. Moi, ce que je n'ai pas, là, je suis pas là pour commenter ce que dit ou fait Raphaël Glucksmann.
Mais il a peur de quelque chose, à mes yeux, c'est ça ?
Ce que je dis en tout cas, c'est que personne ne devrait avoir peur du débat. Personne ne devrait avoir peur de la confrontation. Personne ne devrait avoir peur des électrices et des électeurs. Parce que de toute façon, pour gagner une présidentielle, il faut convaincre et il faut convaincre large. Et pour convaincre large, il faut d'abord convaincre sa propre famille politique.
Au-delà de la méthode, c'est quoi vos différences avec un Raphaël Glucksmann, avec une Ségolène Royal ? Qu'est-ce qui vous distingue, vous, Olivier Faure ?
J'espère que les débats permettront de mieux le définir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distinguer.
J'ai regardé, vous êtes pour l'ordre juste, c'est encore une expression de Ségolène Royal, ça veut dire quoi ? Une France plus juste, vous vous dites ?
J'ai une France plus juste et je sors un livre dans quelques jours.
Je pense que personne n'est pour une France moins juste.
Mais écoutez, il y a des gens qui, en tout cas, font tout pour la rendre moins juste. Quand vous écoutez ce que dit aujourd'hui la droite et l'extrême droite, je ne suis pas sûr que vous y trouviez là beaucoup d'arguments pour servir la justice. Quand ils sont là pour dire qu'il faut baisser les dépenses sociales, qu'il faut faire en sorte que d'en finir avec ce qui a été finalement le grand conquis du siècle précédent, la Sécu, franchement, je me dis que la justice, elle est totalement absente. Et moi, je défends, face au retour de la loi du plus fort, je défends la loi du plus juste. Voilà ce que je veux défendre dans cette élection. Faire en sorte que nous puissions être dans une situation où, à chaque fois que nous avons une décision à prendre, nous nous demandions quel est, en fait, le moyen de rendre la décision la plus juste possible. Et les sujets sont innombrables. Qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de l'alimentation, qu'il s'agisse de tous les sujets qui font le quotidien des Français, eh bien, aujourd'hui, je le dis oui, notre pays n'est pas un pays qui vit exclusivement de la justice.
Vous voulez la taxe Zucman ?
Bien sûr.
La voulez dès maintenant, dès le budget qui est en discussion ?
Je sais que dans le budget qui vient, nous ne l'obtiendrons pas, puisque en fait, il y a une opposition très forte.
Mais
de
l'année dernière,
la droite,
vous l'aviez pas obtenue, pour autant, vous n'aviez pas voté contre. Est-ce que cette fois-ci, ne l'obtenant pas, vous voterez contre ?
Ma règle de vie, Apolline de Malherbe, elle est très simple. Quand je suis majoritaire, j'applique tout mon programme. Et j'essaye d'être le plus fiable et le plus cohérent possible, ce que j'ai toujours été depuis 8 ans que je suis premier secrétaire. Ensuite, si je ne suis pas majoritaire, j'essaie d'obtenir le maximum. Ce que j'ai obtenu l'an passé, c'était de revenir d'abord sur le musée des horreurs, qui était le doublon des franchises médicales, l'entrée dans l'impôt sur le revenu de toute une série de salariés, le fait qu'on ait toute une série de baisses d'indexation sur les retraites, notamment obtenu la suspension de la réforme des retraites, obtenu la hausse de la prime d'activité, obtenu le repas à 1 euro pour les étudiants. Voilà les concessions que nous avions obtenues. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas censuré. Nous n'avons pas adopté, mais nous n'avons pas censuré. Donc, quand je suis minoritaire, j'essaie d'obtenir. Et quand je n'obtiens rien, je censure. Et c'est ce qui a été le cas avec Michel Barnier et avec François Bayrou.
Et ça pourrait être à nouveau le cas cette fois-ci.
Et ça pourrait être le cas cette fois-ci encore. Parce qu'il n'y a aucune raison de servir de marche-pied.
Il y a encore une option selon laquelle vous ne censureriez pas ?
Mais il va y avoir un débat. Moi, je souhaite que le débat ait lieu. Je souhaite que nous puissions avoir des arguments à servir aux Françaises et aux Français en leur disant voilà ce que chacun défend. Et j'espère même que dans ce débat-là, nous démasquerons l'extrême droite, dont on voit ces jours derniers qu'elle est plus que floue et que c'est très compliqué de savoir exactement ce qu'elle défend. Mais la réalité, c'est que quand on a un débat budgétaire, eh bien, les grandes options, elles sont posées sur la table. Et donc, je souhaite que ce débat ait lieu et qu'à la fin, nous puissions trancher. Mais ce que je vois aussi, c'est que l'an passé, Sébastien Lecornu avait, nouvellement nommé, la force d'imposer à Édouard Philippe, à Gabriel Attal, à Bruno Retailleau, les compromis auxquels nous sommes parvenus. Est-ce que quelqu'un pense aujourd'hui sérieusement que Sébastien Lecornu va pouvoir s'imposer à des candidats à l'élection présidentielle qui ne voudront aucun compromis avec la gauche ?
Vous, c'est pareil. Vous mais non plus, vous ne voudrez aucun
moi j'ai
compromis.
Pardon, Malherbe, j'ai fait la démonstration que je savais aller chercher des compromis et que je savais accepter le fait que
quand c'était pas une année présidentielle.
Mais même dans une année présidentielle, simplement, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont prêts à rien. Déjà, l'an passé, ça a été très compliqué de leur faire admettre, par exemple, la suspension de la réforme des retraites.
Olivier Faure, vous dites...
Aujourd'hui, est-ce qu'il accepterait ? La réponse est non.
Vous dites donc ce qu'il faut, c'est pouvoir effectivement être majoritaire. Et donc, ce que vous voulez, c'est évidemment pas seulement gagner la primaire, mais c'est gagner les élections présidentielle. En tout cas, que votre camp gagne l'élection présidentielle. Quand on voit votre place dans les sondages, je suis surprise d'une chose. Je regardais à peu près à la même époque pour l'année, pour l'élection précédente, Anne Hidalgo, qui était bien moins bien placée qu'un Raphaël Glucksmann aujourd'hui, vous l'avez quand même laissé passer, vous l'avez quand même laissé y aller. Vous n'avez pas été remettre en cause le fait qu'elle soit la candidate de la gauche. Pourquoi vous y allez cette fois-ci alors que pour une fois, vous en avez un qui est quand même un peu moins mal placé que les dernières années ? Pourquoi vous allez challenger Raphaël Glucksmann ? Pourquoi vous voulez pas qu'il soit votre candidat ?
Pourquoi est-ce qu'on fait des élections ?
Ce que je veux dire, c'est que dans la même situation, Anne Hidalgo, alors qu'elle était honnêtement dans les choux, vous l'avez quand même laissé y aller.
La question, non, elle était à 10% de cette période-ci, et donc.
Quand j'ai regardé, elle était à 6,5 à cette période-ci, et elle a fini à 2.
Non, en septembre, elle est encore autour de 10. Et donc, elle était même pas candidate officielle au moment où on se parle, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que si vous pensez désormais que seuls les sondages l'élection, eh bien arrêtons de faire des élections.
En aucun cas, simplement,
je compare deux
situations qui sont parfaitement
comparables. Mais acceptons désormais dans ces cas-là l'idée que...
Vous étiez déjà premier secrétaire du Parti Socialiste.
Vous savez très bien
pourquoi
que...
Pourquoi vous n'y avez pas été la dernière fois ? Pourquoi vous y allez cette fois-ci ?
Mais pourquoi vous n'avez pas en souvenir, par exemple, le fait que, Valérie Pécresse, elle était à 18 après son élection dans la primaire. Elle a fini à moins de 5. Vous avez eu des gens comme Éric Zemmour qui sont montés à 17, qui ont fini à 7. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que tant que l'offre n'est pas connue, forcément, il y a des préjugés, il y a forcément un débat qui maintenant va avoir lieu, et que dans ce débat, chacun aura à se révéler.
Dites-vous d'ailleurs.
Oui, dans ces débats, et ces débats de la primaire, mais même ceux qui viendront après, parce qu'il n'y a pas que la primaire dans la vie. Et donc, moi, je souhaite effectivement que nous puissions développer une offre qui rencontre une demande et que, à la fin, eh bien, effectivement, nous soyons non pas à 5, à 10 ou à 15, mais que nous soyons à 20, parce que c'est peut-être certainement le seuil de qualification de cette présidentielle.
Olivier Faure, plusieurs questions encore. L'une, vous l'évoquiez sur le flou du Rassemblement National et notamment cet accord signé avec Nigel Farage par Jordan Bardella. Comment vous le comprenez ?
C'est l'aveu d'une forme de soumission à des Brexiteurs. Enfin, je ne le comprends pas, en réalité. Comment accepter cette idée folle que désormais, en fait, on ferait le travail des Britanniques pour rapatrier sur notre sol, en fait, des gens qui sont en situation illégale. La réalité, c'est que chacun doit en prendre sa part et je ne vois pas du tout quelle est, en fait, l'idée saugrenue qui est passée par la tête de Jordan Bardella, si ce n'est qu'il a cru avoir un moment de gloire en allant signer avec celui qu'il espère être le prochain Premier ministre britannique. Mais voyez bien que, en fait, ces gens sont perdus, qu'ils ne savent pas... En réalité, il n'y a pas un sujet. En fait, ils font de la politique... à l'ancienne, de la com permanente. Et vous voyez bien que ils ont été les alliés de l'AFD, ils ne le sont plus, parce qu'ils ont trouvé que c'était des témoins encombrants.
Ils ont rompu en 2014. En même temps, qu'ils aient rompu quand même.
Oui, je me réjouis. En même temps, je vois bien que, en fait, tout ça est totalement factice, que la réalité, c'est qu'ils ont été ensemble, et quand ils ont trouvé que c'était des alliés encombrants, ils s'en sont séparés. Mais je vois aussi qu'aujourd'hui, il y a une montée de l'extrême droite partout en Europe, et que
la
nous devons être au premier rang pour se battre. Et la victoire de l'AFD, effectivement, en Saxe-Anhalt, devrait être pour chacun le moment d'une grande prise de conscience et se dire que ces gens n'ont pas changé en réalité. Quand vous voyez ce que l'AFD propose, il propose que les enfants soient séparés dans les classes, c'est-à-dire qu'on mette d'un côté les bons Allemands, de l'autre côté les enfants handicapés, et puis les enfants des réfugiés du droit d'asile. Et quand vous regardez qu'ils veulent même suspendre le fait que les enfants des écoles aillent dans les camps de concentration pour apprendre leur histoire et qu'ils veulent en finir avec la repentance parce qu'ils ne veulent plus que le nazisme soit enseigné. Voilà, exactement. Eh bien, effectivement, là, il y a un sujet que chacun devrait saisir et on devrait même avoir quelques frissons à l'idée qu'en Allemagne, c'est possible. Donc, ne faisons pas en sorte que la contagion vienne de notre propre pays.
Le Porge, au Radour-sur-Glane, sérieusement, qu'est-ce qui vous a pris ?
Écoutez, c'est une maladresse de ma part. J'ai repris, en fait, ce que certains m'ont dit sur place en disant, regardez, je pensais à quoi? Je pensais simplement au paysage de désolation dévastée parce que ces maisons, enfin, il faut imaginer, hein, 183 maisons brûlées dans un village qui en compte 240, je crois. C'est, en fait, une vision d'horreur.
Et mais en 10 ans, déjà, on voit sur votre visage que vous dites, ouh là là, où est-ce que je vais? Non. Pourquoi vous n'êtes pas tout de suite repris?
Mais j'ai dit, je crois, enfin, je ne vais pas me citer de mémoire, mais enfin, j'ai dit, si je dois oser. C'est effectivement une maladresse. Il n'y a pas de comparaison possible entre ce qui s'est passé au Radour, sur les causes de Radour et sur les causes du Porge. Simplement, c'était le paysage dévasté que je cherchais à définir. Ce n'était pas très intéressant, ce n'était pas très intelligent de ma part. Et je le regrette, mais évidemment, il n'y a aucun... Enfin, n'imaginez pas un seul instant que je puisse comparer deux situations qui n'ont rien à voir.
Merci Olivier Faure d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste et candidat à la primaire de la gauche. Il est 8h50 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, les GG sur RMC. Jusqu'à midi, vous allez pouvoir débattre de l'actu. Quel est le programme, Alain Marchal?
Eh bien, avec les grandes gueules et avec vous, 32-16, on pourra évoquer le gel des prix du tabac. C'est ce que demande Marine Le Pen, alors que les buralistes sont en colère contre la fiscalité. Marine Tondelier, qui veut candidate à l'élection présidentielle, qui souhaite que la France ait une loi pour interdire le mensonge en politique. Bruno Retailleau, qui veut faire inscrire l'héritage judéo-chrétien de la France dans la Constitution. Voilà, ce sont quelques-uns de nos sujets de discussion sur lesquels vous allez pouvoir intervenir au 32-16.